Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux. Moi c'est Hugo, je suis avec Maxime.
Salut.
Et je suis aussi avec Exerve.
Hello.
Alors messieurs, on se retrouve comme d'habitude pour un nouvel épisode, deux fois par mois. On est là, on est dans vos oreilles, dans toutes vos applis. Vous pouvez mettre les petites étoiles, les trucs comme ça pour qu'on continue à grimper, même si c'est compliqué de grimper quand on est en premier. Je ne sais pas, ça c'est un peu difficile, mais... ben voilà, merci beaucoup, c'est vrai que c'est important. On le dit pas souvent, mais c'est important de mettre, voilà, laisser les petites notes et tout, pour que d'autres gens puissent nous découvrir en allant dans la catégorie jeux vidéo et voilà, et aller au bout du jeu avec nous. Vous pouvez aussi, là, si vous êtes vraiment un vrai fan, ou une vraie fan, bien sûr, de Fin du Game, vous pouvez nous soutenir sur Patreon. Le lien est dans la description pour nous donner des petits sous-sous, comme ça, pour qu'on soit content de faire cette émission, tout simplement.
Sachant que là, on monte pas mal. Hein. Ces derniers temps, on a annoncé, donc vous le savez, il y a quelques semaines, un nouveau palier, parce qu'on avait éclaté tout ce qu'on avait imaginé jusqu'à présent. Donc on a lancé cette fameuse idée de la blacklist. C'est vous qui allez pouvoir choisir à priori, bah, le jour où on atteindra ce palier-là, mais nous, on espère pour la prochaine saison, 4 épisodes qui vont s'ajouter à notre... alors, pas en plus, c'est-à-dire qu'on va pas faire...
non, on va pas faire 4 épisodes en plus.
On sortira toujours des épisodes
prendront, tous les 15 jours. Qui s'intégreront dans la
mais
liste.
Mais voilà, c'est des jeux que vous aurez choisis sur le Discord. La grande guerre...
Tout le monde peut voter.
Ouais, la grande guerre GTA Pokémon est terminée, je crois.
On ne sait pas, mais elle peut être relancée.
Mais voilà, bon, on sait jamais. Il peut y avoir des échauffourées.
La bataille est terminée.
Ouais, la bataille, ouais, c'est ça, la guerre n'est pas finie.
Exactement. Donc voilà, vous pouvez nous rejoindre sur Patreon. Merci évidemment à toutes celles et ceux qui feront le choix de nous soutenir. On remercie aussi Third Edition, la maison d'édition spécialisée dans les ouvrages consacrés aux jeux vidéo.
Mais pas que.
Alors en ce moment, qu'est-ce qui se passe chez Third? That's the problem, you know, with the TH, it's complicated. C'est les 35 ans de Zelda.
Oui, voilà. C'est un peu.
Ça, c'est vraiment l'actu.
Là, 2021, c'est un peu l'année des anniversaires. Voilà. Moment, tu vois, c'est ah oui, alors tel jeu est sorti il y a tant de temps, etc. Tous les ans, ça marche.
Tous les ans, il paraît que.
Tous les ans, il y a des anniversaires. C'est louche. Je pense qu'il y a...
Il y a des choses à faire,
ouais.
C'est possible.
Il se passe quelque
chose. En tout cas, ce qui se passe... voilà, je suis perdu avec ce son.
Zelda, 35 ans.
Zelda. Déjà, il y a les rééditions des bouquins qui étaient déjà sortis chez eux, donc sur Legends of Zelda. Il y a aussi celui de Fanny Rebillard qui va sortir sur la musique de Zelda. Donc Fanny qui fait des études de musicologie, il me semble, appliquées aux jeux vidéo et qui, du coup a sorti un gros bouquin comme ça sur toutes les...
Sur les 2-3 musiques de Zelda, quoi. Okay. Voilà.
Et moi, j'en ai pas trop comme ça qui me vient en tête. Ça fait
le flutio là.
Pourquoi l'ocarina là,
ouais, les trucs, baguette du vent, des machins comme ça. C'est vrai qu'on est très, très mélomane dans cette émission. Non, voilà, ça c'est les vraiment. Donc bah, voilà,
là pour le coup, je peux leur faire un peu de promo parce que connaissant bien Damien, donc qui est un des éditeurs de Fleur d'édition, lui c'est vraiment un fanatique de musique. Il avait bossé, je crois, justement sur un livre qui s'appelait VGM qui parlait de video game musique. Et à chaque fois que j'ai eu l'occasion de travailler avec lui, il me dit toujours, et tu parles de la musique, genre The Witcher, t'as parlé de la musique,
donc voilà.
c'est vraiment son violon dingue pour faire un facile jeu de mots. Et là je me dis qu'avec le taf, du coup, si vous êtes intéressé par Zelda et la musique, à mon avis ça va être un ouvrage très intéressant.
Voilà, donc on les remercie évidemment pour leur soutien. Ils sont toujours là depuis quasiment le début. Hein. Donc merci beaucoup.
Des hipsters de Fin du Game.
Effectivement, ils étaient là avant vous peut-être.
Avant qu'on soit cool.
Avant qu'on soit cool. Non, on était cool depuis le début. aujourd'hui, on va pas parler Nintendo. On va parler assassinat. On va parler chauve. On va parler capillarité. On va parler petite cravate rouge. Bref, on va parler de Hitman 2016. On évoquera aussi peut-être brièvement les épisodes suivants, même si voilà, ce sera vraiment juste par petites bribes comme ça. On évoquera aussi peut-être les épisodes sortis avant, puisque vous connaissez un petit peu la structure de l'émission. La musique, par contre, alors ça, on n'y avait pas pensé.
Non, mais on y pensera.
On y pensera, il y aura une musique.
Autant, tu vois, dans Blood Money, il y avait le Ave Maria à la fin.
Oui,
iconique. Mais là, bon, dans Hitman 2016, il y a quelques morceaux sympas. Moi, je me souviens plus des morceaux d'interface parce que tu passes du temps dans les menus et tout.
Il y a une ambiance quand même. Ils arrivent à créer une identité, mais il n'y a pas...
Après, c'est toujours Jesper Kidd, qui est on en reparlera, qui est vraiment un compositeur qui est avec eux depuis la nuit des temps, quasiment. Mais voilà, bon, on va laisser DJ Max faire sa magie.
Et on se retrouve juste après ça. Hitman, donc on appelle souvent Hitman 2016 puisque hein, il est juste nommé comme ça. Alors comme c'est Doom. En majuscule, hein, c'est comme Doom exactement. C'est un reboot hein, de la série qui est sorti le 11 mars 2016. Alors c'est le premier épisode qui est sorti le 11 mars 2016. C'est sorti tout au long de l'année 2016 jusqu'au 31 octobre. Donc il y a eu 6 épisodes. On reviendra d'ailleurs un petit peu par la suite sur ce modèle épisodique qui a fait tant jaser à l'époque. Mais d'abord, on va revenir un petit peu sur l'histoire de IO Interactive, donc le studio danois qui est derrière le jeu. Studio qui a bah, en fait, vraiment été marqué par Hitman. Hein. C'est vraiment un studio dont c'est la série phare. C'est avec ça qu'ils ont commencé. Donc à la fin des années 90, le studio qui est fondé, il voulait se lancer sur un shooter. Donc un shooter assez traditionnel, hein, vraiment troisième personne, un truc assez classique. Et en fait, ils avaient surtout développé leur moteur qui s'appelle le Glacier Engine, qui restera d'ailleurs le nom du moteur qu'ils utiliseront jusqu'à aujourd'hui.
On sent l'origine danoise.
Oui, oui, les glaciers, les fjords, hein, tous ces trucs-là.
Et
voilà.
Il y a le frost aussi, c'est suédois.
Frostbite.
Hein, ah oui, c'est vrai. Tout, dans ces pays-là, les moteurs,
je pense qu'a priori, ça les a marqués.
Ils n'ont pas d'équipe de foot ou de trucs, mais ils ont les
c'est
moteurs de
jeu. C'est comme chez Ubisoft, hein, on en a parlé l'autre fois avec les soldats inconnus. Hein, il y avait le Baguette Engine. Et,
D'accord. Oh là 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 là. Comment cet épisode commence ? Alors, ce qu'il faut savoir donc, c'est qu'ils avaient développé ce moteur, c'était pas pour rien que je vous disais ça, c'est parce que bah, y avait toute une réflexion autour de la physique qui avait été faite, des personnages au niveau du ragdoll. Hein, le ragdoll, je vais pas vous faire le mec qui fait style, il connaît la technique, mais c'est cette technologie qui permet de faire un peu bouger les corps comme ça, de manière un peu procédurale en fonction des collisions et des trucs comme ça.
Sachant que c'était pas que ça, hein, y avait aussi les tissus, hein, tu vois, c'était quand même assez impressionnant parce que tu pouvais te cacher derrière des rideaux, mm-hmm, en fait, et quand mm-hmm. tu poussais, ton modèle poussait des rideaux, ce qui allait époque sur les consoles qu'on connaissait était une petite révolution quand même.
Oui, c'était sur PlayStation 2, Xbox,
ouais, une même, je crois même le premier Hitman, il me semble qu'il s'était sorti sur... J'ai un doute là, tu vois, j'ai
c'est 2000, ouais, c'est PlayStation, ouais, ouais, non, je crois pas que ça soit PlayStation 1. Bref, tout ça pour dire que ils avaient été en fait, ils ont créé ce modèle, ils commençaient à développer un shooter et il y a un producteur qui était donc de chez Eidos qui s'intéressait un peu au projet, bah les producteurs, ils cherchent des projets forcément et ils tombent sur celui-ci. Et en fait, en voyant cette technologie avec ce ragdoll, ces interactions possibles avec le moteur physique, il se dit bah, peut-être qu'on va pas faire un shooter, on va faire un shooter
cérébral.
Un shooter cérébral. Voilà. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'un shooter cérébral ?
Alors, je sais pas exactement ce qu'ils entendaient par ça, parce que bon, bah, le résultat de Hitman était un peu différent de cette idée. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un jeu qui s'est beaucoup inspiré de FIF, Dark Project, hein, qui ouais. est sorti quelques années plus tôt, et également dans une certaine mesure de Deus Ex, puisque du coup, le producteur qui s'appelle Jonas Eneroth, qui bossait chez Eidos, lui en fait il était déjà dans à l'époque donc sur FIF et il bossait en parallèle du coup sur
ouais,
Deus Ex
et du
donc
coup
on sent
il se
qu'il y a
dit
quand même une idée, voilà, de...
c'est ça, en voyant ça il se dit bah en fait peut-être qu'on peut faire un shooter où justement ce sera les interactions avec les environnements qui pourraient être intéressantes et c'est comme ça que le jeu va vraiment switcher alors qu'à la base c'était vraiment un shooter genre il voulait s'inspirer des films Hard Boiled à la John Woo, des trucs comme ça, donc pas du tout
ce qui est gardé, beaucoup plus action, ouais,
exactement,
clairement.
Et puis après bah ils sont partis vraiment sur cette idée d'infiltration et donc sort le premier jeu en 2000, Codename 47, c'est comme ça qu'il s'appelait, Hitman, Codename 47. Jeu qui était très difficile, hein, il faut le souligner, hein, il y avait déjà cette idée hein, donc d'abattre une cible, hein, on jouait ce fameux assassin, mais par contre il n'y avait aucune sauvegarde dans les niveaux, donc si tu perdais, si t'échouais, si tu faisais repérer,
il fallait vraiment connaître par cœur la boucle, etc., parce qu'il fallait que tu aies les armes au bon moment, que tu sois au bon endroit, enfin c'était cool, mais par contre voilà, c'est vrai qu'en termes de difficulté, ça passerait difficilement aujourd'hui.
Ouais, moi j'y ai pas joué à l'époque, moi j'ai découvert du coup le 2, Hitman 2 Silent Assassin, qui cette fois-ci améliorera finalement bah, le premier vraiment en tout point et qui donnera naissance un peu plus à la formule telle qu'on la connaît. Et pendant ce temps, bah, Eidos va racheter carrément IO, hein, donc ça va faire partie du groupe, et ils sortiront ensemble donc Hitman Contracts et ensuite Hitman Blood Money. Et voilà, Blood Money qui est peut-être un peu l'épisode, c'est comment t'avais dit tout à l'heure,
l'Apex.
Voilà,
c'était leur pic hein, ouais. À ce moment-là, c'est vrai que cet épisode-là, il a marqué pour tout un tas de bonnes raisons et en fait après ils ont voulu bah, surfer un petit peu sur ce truc-là, ils n'ont pas forcément réussi. Mais comme ça faisait déjà...
Ouais. Juste pourquoi il a marqué tout simplement, c'était parce qu'il y avait déjà un peu ces niveaux ouverts avec plein de façons comme ça de tuer les cibles.
Des déguisements aussi, tout ce côté, on pouvait empoisonner de la nourriture, des choses comme ça, en apporter, enfin des choses assez contextuelles.
Ouais, une t'avais fois beaucoup qu'on a d'interactions et puis t'avais un sous-texte, enfin t'avais toute une atmosphère dans Hitman Blood Money très satirique, parodique de la haute société et de l'Amérique en fait, assez profonde, qui du coup marchait pas mal, tu vois. c'était l'époque des c'était l'époque des GTA Vice City et tout ça, et donc ce côté parodique, satirique, ça fonctionnait bien, et du coup c'est un jeu qui a marqué bon, pour tout un tas d'autres raisons.
C'était aussi des niveaux avec des vraies identités, hein,
voilà, il y avait déjà ça aussi, ce travail sur l'ambiance,
sur les décors, scènes de théâtre, t'avais le bateau à aube sur le Mississippi, t'avais les grandes maisons dans le sud, enfin t'avais voilà, t'avais le Mardi Gras, enfin t'avais plein de niveaux comme ça qui étaient très très iconiques et qui sont restés encore aujourd'hui comme ça.
Après ils vont faire vraiment une pause, en tout cas avec Hitman, ils vont bosser sur une licence qui s'appelle Ken & Lynch, qui faisait vraiment du TPS là, très action, avec une identité, ouais c'est vrai que c'était coop, hein, c'était le moment où il fallait faire de la coop sur la 360, et ouais c'était bon, c'était un peu particulier, c'était un délire un peu gras, Ken & Lynch.
Donc le patron du studio, je sais plus exactement quel est son titre, il s'appelle Akan son prénom, ils en parlent dans un documentaire Noclip, il expliquait qu'en gros à ce moment là les gens ils commençaient à être âgés, donc il y a eu deux factions qui se sont créées chez IO. Il y avait les gens qui voulaient faire moins de violence, et donc ils ont fait Mini Ninja, et t'avais ceux où ils disaient non, on peut en faire beaucoup plus, et ils sont allés vers Ken & Lynch.
Donc voilà, il y a cette pause là où ils laissent un petit peu de côté Hitman, et puis ils reviendront à Hitman avec Absolution. Absolution qui connaîtra vraiment un développement très compliqué, parce que au moment où ils commencent à vouloir le développer, c'est la mode de Gears of War, hein, c'est vraiment Ken & Lynch, hein, même s'inscrivait un petit peu là-dedans, mais il avait envie de faire un Hitman qui était beaucoup plus streamliné, beaucoup plus linéaire, beaucoup plus spectaculaire même, et en fait pendant le développement ils vont se rendre compte que bon, ils sont peut-être allés peut-être trop loin dans la linéarité, et du coup ils vont un peu rechanger leur fusil d'épaule, ils vont remettre des niveaux un peu semi-ouverts, mais ce sera un peu compliqué en tout cas.
Ouais, en fait ils ont vraiment redémarrer le projet en cours de route, c'est-à-dire qu'ils ont commencé en 2007 le développement, et même avant, parce que c'est 2005, vu que le projet en tout a mis 7 ans, et à cette époque-là, effectivement, c'était la mode du TPS, grand spectacle, machin chose, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une grande partie des gens qui avaient bossé sur Blood Money, en fait, n'étaient plus là, tout simplement, donc c'était une nouvelle équipe qui arrivait avec Absolution, et donc ils n'avaient pas forcément le même bagage, on va dire, en termes d'expérience, et ils sont partis dans une direction, et arrivés à la mi-chemin, c'est-à-dire peut-être vers 2008-2009, ils se sont rendus compte, ah bah non, mais ça va pas aller du tout, et donc pendant 2 ans, entre 2010 et 2012, ils ont crunché comme des porcs pour vraiment refaire le jeu, rechanger les niveaux, les agrandir, ajouter des cibles, faire en sorte en fait que le jeu ressemble plus à du Hitman, parce que pendant un temps, il ne l'était pas du tout. C'était vraiment du pur jeu d'action scénarisé. Limite Uncharted.
Mais la tragédie du truc, c'est que c'est quand même resté trop linéaire pour les fans de Hitman. Le jeu, ils ont mis 7 ans à le développer, du coup, avec ce simili-reboot, enfin tout ce rework qu'ils ont dû faire. Et comme tu as dit, c'était un peu moins linéaire, mais ça l'était trop déjà pour les fans, et même trop pour le jeu vidéo qui s'ouvrait vachement plus, parce que c'était plus la mode de l'open world, des niveaux ouverts, donc c'est un peu mauvaise
en
décision
fait,
sur mauvaise décision.
Entre le moment où ils ont commencé à développer et au moment où le jeu est sorti, le shift s'était fait entre jeu très linéaire à la Uncharted à open world, truc qu'on connaissait.
Ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien dans l'industrie du jeu vidéo, parce que quand les gens se lancent en se disant le Battle Royale, c'est vraiment incroyable, et qu'ils arrivent 3 ans plus tard, et en fait les gens ils jouent à Valheim ou ils jouent à complètement autre chose.
Ubisoft, ils ont sorti un open world mi-2020. Je sais pas si vous en souvenez.
Un Battle Royale, tu veux dire ?
T'as
dit Open World.
Oui, pardon.
Open World, ça fait 500 ans.
Ils ont sorti quelques-uns. Mais ils ont sorti un Battle Royale en 2020. Bon, personnellement, j'en entends plus du tout parler.
Et Square Enix vont faire un avec Final Fantasy, tu vois.
Oui,
d'ailleurs, tu parles de Square Enix, c'est vrai que c'est important de les mentionner parce que justement, en fait, au moment où ça se développe, hein, c'est vers 2010-2011 que Eidos se fait racheter par Square Enix et devient donc Square Enix Europe. Eidos, ça n'existe plus, c'est Square Enix Europe.
Il rejoint d'autres du coup studios, parce que Eidos possédait donc le studio qui a fait Deus Ex, Tomb Raider
c'est
aussi.
Tous les studios côté Canada,
Crystal Dynamics, ces trucs-là.
Du coup, les licences Hitman, Deus Ex et Tomb Raider passent chez Square Enix.
Square Enix, effectivement. Et du coup, c'est vrai qu'on peut peut-être voir dans cette envie-là de faire un truc un peu plus streamliné, cette volonté de Square Enix d'avoir, de faire un peu de Hitman du triple A, alors que finalement, c'est un jeu qui avait une identité qui était toujours un petit peu niche. Ça va être... il va pas assez se vendre, hein, le jeu Absolution. Ça va être très compliqué pour IO, et ils vont devoir laisser partir plus de 70 personnes. Hein, donc, ça fait quand même une grosse partie de l'effectif
à l'époque,
qui se barre.
C'est un tiers,
plus
la moitié, je crois. Ou
ah, c'est
moitié. Enfin, je sais plus exactement... c'est quand même un premier gros licenciement de masse et surtout Square Enix donc il leur impose une direction en mode vous arrêtez Ken & Lynch, vous arrêtez tout le reste et vous faites du Hitman et vous partez sur une nouvelle idée avec Hitman, et puis du coup c'est cet épisode là c'est le résultat de ça dont on va parler aujourd'hui.
Exactement,
en épisodique
d'ailleurs, on peut peut-être maintenant en parler, puisque effectivement il y avait cette idée, ils vont se relancer pour réessayer de faire Blood Money. On l'a dit, vraiment c'est l'épisode qui a marqué tout le monde, qui est resté celui celui qui est le plus mentionné quand on se dit bah, c'est quoi Hitman, bah, c'est Blood Money. Du coup, bah, y a cette envie de se dire bon, bah, on va essayer de réitérer ouais, voilà. l'exploit, de revenir à ce truc-là. Mais bah, il va avoir cette contrainte de faire de l'épisodique. C'était un moment, voilà, 2015, l'épisodique, c'était... It was a thing, c'était un truc dans le monde du jeu vidéo. Il y avait des sujets genre pourquoi oui, GND oui. Est-ce que vous allez faire un GND sur le format épisodique?
On peut voir un peu sur GND, comme tu le dis, parfois on nous pose des questions, est-ce que vous allez faire un épisode sur les DLC, sur telle pratique du jeu vidéo? En ce moment, ça va être le Game Pass, entre guillemets le Netflix ou slash le streaming du jeu vidéo. À une époque, c'était est-ce que vous avez parlé du format épisodique? C'était un vrai truc, c'était un vrai débat, mais avec le recul, bon déjà ça s'est terminé très vite, mais il n'y avait pas tant de jeux qu'il faisait non plus. Les trois gros
c'est
jeux.
C'est Telltale en fait qui a vraiment fait exploser le truc. Et Square Enix, bah, ils se sont dit, bon bah on va peut-être s'engouffrer dans ce truc.
Il y a eu aussi Life is Strange, du coup, qu'on peut mettre en parallèle avec les Telltale, parce que c'est le même genre de jeu, entre guillemets, tout d'un point de vue narratif, c'est intéressant. Et Square Enix était derrière Life is Strange, et du coup on se demande s'il n'y a pas eu, s'ils ne sont pas dit. Parce que Life is Strange c'est 2015, je crois.
Ouais.
Et du coup ils se sont peut-être dit, bon bah ça marche bien l'épisodique, voilà. On va aussi l'appliquer à Hitman. Enfin, je sais pas.
Alors,
vraiment.
Pas forcément, parce que là, du coup, comme ils en parlent dans nos clips, c'est vrai que souvent, l'idée, c'est de se dire, ah, les méchants éditeurs, c'est Square Enix qui leur a imposé. Dans les faits, les gens en interne chez IO ont pensé à cette idée-là, et ils assument complètement leur échec, parce que, bon, on le redira, ça n'a pas fonctionné. Mais ils ont assumé cette idée de faire en sorte que pour que Hitman fonctionne, ils ont fait le pari de le faire découvrir avec un seul premier épisode, en faisant le pari que des gens allaient l'acheter à pas cher. Parce que, la question à ce moment-là, c'était comment on fait dépenser de l'argent aux gens, et surtout comment on fait pour rentrer de l'argent avec nos jeux vidéo, parce que quand on met 7 ans à développer un jeu, c'est très compliqué évidemment de rentrer de l'argent tout du long, et donc l'idée c'est de modifier la façon dont ton cash flow il est généré tout simplement, et tu peux passer dans une logique de service. Et c'est vrai que très tôt les gens d'IO ils ont adopté cette idée de faire de Hitman un jeu service, puisque c'est ce qu'il est aujourd'hui, avec une plateforme numérique sur laquelle les gens vont être connectés en permanence. Il va y avoir du scoring, des ladders, des échanges, du contenu généré par les utilisateurs et tout. Et quand ils se lancent là-dedans, ils font le pari que ça va fonctionner avec un épisode, et ensuite ils vendront à chaque fois un nouveau niveau séparément.
La stratégie, très simplement, c'est de se dire, si on vend un produit juste à 15€, en fait, on va pouvoir générer beaucoup plus de volume que si on en vendait un à 60€, ou on resterait sur notre niche. Là, on peut rentrer beaucoup d'argent d'un coup, parce qu'il y aurait un gros volume avec ce prix bas.
Et on espère convertir aussi, c'est-à-dire attirer un plus grand nombre à 15€ que de personnes qui en auraient acheté à 60€, et convertir du coup une grosse partie de ces gens qui ont pu tester le produit et qui achèteront à 60€ si ça leur plaît. Mais il parlait vraiment, pour en revenir sur le jeu service, il parlait de Netflix, de l'assassinat. C'est dans le
documentaire. Oui, c'est dans le documentaire.
Ils étaient en avance.
C'est ça qui est rigolo, c'est qu'ils avaient déjà cette idée-là de Netflix. Donc nous, le terme qu'on connaît, c'est World of Assassination, parce que ça, c'est ce qu'ils ont parlé donc, dans les présentations officielles. Et en interne, eux, ils parlaient du Netflix, parce que l'idée, c'était vraiment de proposer du contenu, d'attirer les gens, d'appâter les gens avec un premier contenu à pas cher, pour les ferrer et leur vendre régulièrement derrière, et du coup générer de l'argent sur la durée, qui est l'objectif principal.
Moi, je suis en train de re-regarder The Wire en ce moment. C'est vraiment la stratégie Stringer Bell et tout sur la dope. C'est la même chose.
La première dose est gratuite,
exactement.
Mais pas le cas. Hitman, c'était pas le cas.
Effectivement, c'est vrai que ça a pas été le cas. En fait, la stratégie n'a pas du tout fonctionné. En fait, ils ont beaucoup plus attiré de gens qui ont dit, moi j'achète, je paye directement les 60€ et je m'engage sur la saison parce que j'ai envie de jouer à Hitman et ça me parle. Mais ils ont pas réussi en fait à attirer ce public beaucoup plus large, donc gros échec en fait de cette stratégie, même si ils ont dû quand même s'y tenir sur tout au long de l'épisode. Et c'est après en fait en mettant le prologue gratuit que là ils ont vraiment plus attiré de monde.
Et je me demande si ça c'est pas arrivé après le fameux Squixit, parce que du coup on va parler du Squixit. C'est que donc le jeu a priori au vu des espérances de Square Enix n'a pas vraiment marché, donc
il m'a le premier épisode jeu, voilà. les premiers épisodes fonctionnent pas assez bien pour aux yeux de Square
et
Enix,
du coup Square Enix s'est séparé de IO. IO a encore dû virer des employés. Là, je crois qu'on était aussi vers du 40%, quelque chose comme ça, de mémoire. Je confonds un peu les deux, du coup, je sais plus comment c'est.
Non, c'est celle-là, 40%.
Mais ils ont gardé l'IP, ils ont gardé Hitman, et c'est pour ça qu'ils ont pu faire les 2 et 3. Mais il y a eu cette décision qui a été prise, du coup, de rendre le prologue, le tuto, donc ces 2 missions d'Hitman gratuites, pour le coup, pas à 15$ ou quoi, mais gratuites. Et là, il a dit ça a cartonné. En fait, il y a eu beaucoup plus, donc non seulement beaucoup plus de gens, forcément, parce que c'est gratuit, mais une grosse partie a été converti et a acheté le jeu par la suite.
Ouais, là, en quelques jours, ils ont multiplié par 5 le nombre de gens qui jouaient au jeu. Ils sont passés de 1 million et quelques à presque 6 millions de gens qui jouaient à Hitman du jour au lendemain. Et donc, forcément, bah, ça a converti énormément de gens et c'est ce qui leur a permis de, bah, de remettre un pied à l'étrier. Parce qu'en fait, donc, quand on parle de revente de Square Enix, c'est pas ils ont regagné leur indépendance parce que pendant... Non. Bref moment, ils appartenaient à Warner Bros. Mmh. Puisque du coup, l'idée, c'était que Square Enix cherchait à vendre le studio à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire qu'ils s'en séparaient. Et ça, c'est assez intéressant. Je vous invite vraiment à regarder, si vous avez l'occasion, les documentaires, nos clips, parce qu'ils parlent de ces relations-là en des termes vraiment très positifs, ce qui est assez rare, parce que souvent, c'est des choses qui sont soit tues, parce qu'il y a beaucoup d'embargo, de NDA, et ils n'osent pas en parler. Là, ils en parlent en des termes positifs, ils expliquent comment ça s'est passé. Et ça explique, par exemple, un truc que moi, j'avais pas, que je me posais comme question, c'est je fais une toute petite digression, mais par exemple, quand Hitman 3 est sorti, en fait, Square Enix, en Europe, continuait d'assurer une partie de la promotion marketing. Quand j'ai reçu un code de Hitman 3, c'était quelqu'un de chez Square Enix qui me l'avait envoyé, alors que j'étais là, mais ça fait pas 4-5 ans que vous êtes séparés. Oui, mais on continue de bosser un peu avec eux, on a toujours des deals, etc. Donc, il y a eu une espèce de séparation cordiale qui s'est faite à cette époque-là.
En tout cas, voilà, d'après le CEO actuel de IO, voilà, il dit que ça s'est bien passé. Tu as aussi un témoignage d'une employée qui disait, bon, forcément, voilà, être viré, c'était un peu dur, mais finalement, bah, y a des syndicats, enfin, etc., au Danemark, ils ont pu repartir avec 4 mois de...
Oui, a priori, les conditions de travail ne sont pas les mêmes aux États-Unis.
Exactement, c'est vrai que c'est la différence avec des pays comme ça qui font beaucoup de social. Forcément, les employés ne prennent pas aussi cher que ceux de Telltale, par exemple. On racontait l'histoire de Telltale dans notre épisode. Vous connaissez Fin du Game, ce podcast ? Et donc, c'est vrai qu'ils ne l'ont pas du tout vécu de la même façon. Et voilà, comme quoi, parfois, c'est pas mal. Mais bref, tout ça pour dire qu'au final, le jeu, aujourd'hui, ils affichent, ils disent qu'il y a eu 15 millions de joueurs. Hein, c'est ça, sur. Voilà.
On ne sait pas ce que ça veut dire. On ne donne pas les chiffres. Voilà. C'est pas forcément bon signe, mais
quand
après,
on dit pas
en tout
vente,
cas,
ça veut dire que c'est autre chose. C'est...
Quand on additionne ceux qui ont joué au prologue gratuit à tel épisode, ça fait 15 millions.
Ce qu'on peut savoir, c'est qu'en tout cas, ils sont rentables. Ça, là-dessus, ils gagnent de l'argent. Et aujourd'hui, ils sont indépendants, mais on en reparlera à la toute fin de l'épisode. Là, donc, on peut revenir un petit peu sur le Hitman 2016. Et je vais laisser à l'un de vous deux le lourd tribut de raconter l'histoire de Hitman. Parce que
ça va être très très long. On peut déjà, ça va être extrêmement long. Alors, ce Hitman, on l'a déjà dit, c'est vraiment un reboot. Hein, donc, l'idée, c'est vraiment de repartir de zéro. On va vraiment redécouvrir l'agent 47 qui s'engage.
Qui repère ses cheveux.
En tout cas, qui commence à bosser avec l'ICA, hein, donc une organisation d'assassins. Une entreprise, tout ce qui est plus banal, ma foi, qui se vend au plus offrant.
C'est deux, trois mauvaises erreurs à la fin du bac. un peu d'erreur d'orientation aussi.
Ah, je ne sais pas, n'importe qui, on avait bien faire l'ENA ou un truc comme ça.
T'imagines, c'est officiel, c'est genre international assassination.
Ils sont au salon de l'étudiant. Oui, bah bonjour, bah c'est tout. Écoutez, c'est notre entreprise.
Alors donc, là, vous nous écoutez, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est juste que,
parce que
il n'y a pas grand chose d'autre à raconter en vrai.
Il
n'y
aura pas grand chose d'autre, effectivement, vraiment.
Ils vont revenir en fait, voilà, sur les origines de la collaboration entre l'agent 47 et Diana, qui est son agent de liaison, tout simplement.
Et encore, non, c'est même pas les origines. Enfin, c'est on rentre, il bosse avec eux et il fait des contrats. Et c'est juste que, au fur et à mesure des missions, il va avoir une espèce de fil rouge qui va se nouer autour de ce fameux shadow client, hein, donc un client de l'ombre qui serait en fait derrière tout, qui serait le commanditaire en fait de tous ces, en tout cas, les premiers assassinats.
Ça serait l'Illuminati des Illuminati.
Exactement. On assassine des gens qui feraient partie d'un groupe qui s'appelle Providence. Je ne croyais même pas que ça existait, que ce n'était qu'une légende. Tout ça, et en fait non, c'est des Illuminati qu'il faut qu'on se met à buter pour le compte d'un client un petit peu de l'ombre comme ça, et on l'apprendra, et au final on décidera de se mettre sur la piste justement de ce shadow client, parce que voilà, Diana et l'entreprise, ils sont neutres, ils se vendent au plus offrant, mais ils sont neutres. Et ça,
mais ils aiment pas l'idée d'être manipulés, de rentrer dans un engrenage en fait qui les dépasse, de pas avoir trop compris, et du coup ils disent bon, ça suffit, maintenant on va le buter.
Ça suffit, les conneries.
On est des assassins, donc après tout on va faire ce qu'on sait faire de mieux,
exactement. Sauf que finalement on n'ira pas très très loin dans cette histoire, hein, puisque dès le début ils avaient vraiment envisagé d'en faire une trilogie, et à la fin on apprend juste, en fait c'est juste Providence qui approche donc l'entreprise des assassins. C'est vraiment con quand
la
on le dit comme ça. et qui leur dit bah, est-ce qu'on pourrait pas travailler ensemble, et si vous êtes pas d'accord, eh bien nous dévoilerons justement le passé de l'agent 47 qui est en fait...
Ou plutôt, si vous êtes d'accord, on vous donnera des infos sur 47.
C'est comme ça, oui, pardon, oui, parce que
une des carottes, c'est de savoir qui est l'agent 47, voilà. Tu vois.
Ah oui, c'est vrai que son passé a été effacé, patati patata.
Un enfant de ceci ou cela.
Bon,
tu vois.
Ce qui est un petit peu marrant, c'est toujours le problème des reboots, c'est que bah, si vous avez fait les Hitman d'avant, vous connaissez l'histoire qu'il a été fabriqué dans un laboratoire en Roumanie, le docteur Krotnov, ou j'en sais rien comment il s'appelait.
Ouais, en fait, vous vous en foutez déjà, en fait.
c'est vrai que c'est possible qu'on s'en foutait déjà. Donc, ça se termine là-dessus, vraiment sur une espèce de cliffhanger, sachant que, bon, sur ce premier épisode, en plus, la narration est un peu en retrait, alors que sur les autres épisodes, il y aura un peu plus de... En tout cas, sur le 2 et le 3, il y aura un peu plus de cinématiques, de petits moments de complicité entre Diana et 47 et d'autres personnages qui se...
47 étant évidemment, tu vois, comme
un bout en train.
Hein.
Ouais. Je les imagine vraiment les scènes où genre ils font un pique-nique et tu sais, ils gardent toujours le visage hyper froid.
Passe-moi, en fait, c'est ça, passe-moi c'est... le jambon.
C'est dès le départ, en fait, ce personnage-là, il a vraiment une gueule de l'emploi de l'assassin ultime, tu sais, une espèce de coquille vide qui a été fabriquée dans une éprouvette.
Calculateur, voilà, qui
pas d'émotion.
Pas un paix au-dessus de l'autre. Non, c'est pas une parole au-dessus de l'autre.
Mais personnage assez iconique, mine de rien, du jeu vidéo. Hein. Il a été adapté en film, etc. Alors, c'est pas la première idée d'un assassin qui serait surentraîné ou voire cloné, nanani, nanana. Mais en termes d'imagerie, voilà, le chauve à côte barre, bon, c'est quand même.
Ouais, ça a bien marqué les esprits.
Oui, c'est vrai que c'est un personnage qui est finalement assez simple, mais avec son code vestimentaire, vraiment ce costard noir, cette cravate rouge, le code barre chauve, il a une silhouette aujourd'hui qui est vraiment reconnaissable et ouais, qui a réussi à vraiment s'inscrire dans le truc. Mais voilà, ça dépasse pas grand chose. Par contre, ce qu'on a noté, ce qu'on peut dire, c'est que si finalement cette espèce de grand fil rouge qui est là pour, bah, pour créer du lien finalement et justifier un petit peu bah, pourquoi 47 il va à Sapienza, pourquoi il va en Italie pour tuer des gens. Par contre, ce qui est intéressant, c'est toutes les petites histoires qui vont caractériser chacun des niveaux du jeu, puisque là, à chaque fois, il y a un petit plot, quoi, il y a une petite histoire. Le premier à Paris, c'est un défilé de mode avec deux personnes qui seraient sur le point de vendre justement des informations sur des agents. Le deuxième, c'est un mec qui est en train de bosser sur un virus qui permettrait en fait de sniper des gens parce qu'il serait, il ne fonctionnerait, il ne tuerait que sur l'ADN.
Il passe de corps en corps, mais il reconnaît l'ADN de la cible et il ne tue que cette personne-là.
C'est un corona un peu plus sympa finalement, hein, qui est
corona vénère.
Voilà, c'est peut-être plutôt celui-là que Bill Gates a fait financer pour
avec la 5G,
exactement.
Je sais pas quoi,
voilà,
les hommes lézards.
À mon avis, il est plus celui-ci. Et puis après, bah voilà, finalement chaque niveau, en fait, à chaque fois, il y aura une petite histoire comme ça. Et à la fin, d'ailleurs, je crois que le dernier niveau, c'est Hokkaido. Je crois qu'on doit tuer le boss de ICA, qui justement va se faire soigner. Voilà,
qui va faire un deal, je crois, avec Providence.
Exactement, il fait un deal et du coup, il se fera malheureusement perforer par sa machine.
C'est ce qu'on a, cette espèce d'ambiance spy versus spy, tu sais, avec des complots, des contre-complots, des agents, des doubles, triples, quadruples espions. Voilà, c'est cette ambiance Mission Impossible. C'est vrai que ça, c'est un truc qu'on avait dit entre nous, mais pour que ça soit un peu justifié d'aller tuer des gens, on peut pas aller tuer un plombier ou un éboueur. Il fallait que ça soit effectivement des gens de la haute qui forcément sont méchants et qui sont très très méchants parce qu'ils veulent diriger le monde en secret.
Oui, voilà, moralement disons qu'il y a toujours un côté, voilà, soit des méchants très méchants ou je sais pas, il y a l'histoire du chanteur
corrompu
ou t'as le chanteur qui aurait tué sa petite amie et en fait on sait que c'est vrai parce qu'il y a des enregistrements audio, donc ça va, moralement c'est bon, on est plutôt d'accord.
Il mérite de mourir. Ouais. Voilà, c'est comme ça que fonctionne la justice.
Mais finalement cette histoire, bah ça reflète bien de toute façon ce qu'ils font en production, c'est que l'histoire, c'est plus une contrainte, en fait, de trouver une espèce de liant, de fil rouge entre chaque niveau, puisque eux, pour eux, voilà, l'objectif, c'est de faire des niveaux cool, dans lesquels on va pouvoir vraiment, entre guillemets, s'amuser, vous trouver des méthodes d'assassinat sympas, découvrir des environnements et tout, et les personnes qui écrivent l'histoire, bah, elles font en fonction de ça, en fait.
Pour moi, c'est vraiment une bonne illustration de cette décorrélation qu'il y a entre la violence à l'écran et la violence telle qu'elle existe dans le vrai monde, c'est-à-dire que tuer des gens dans Hitman, c'est rigolo, parce qu'il y a tout un dispositif qui est fait, il y a des niveaux rigolos, enfin, il y a toute une formule qu'on va justement expliciter dans cet épisode, et il faut pas voir ça comme un jeu de guerre, vous voyez, très premier degré, et c'était peut-être d'ailleurs un des défauts d'Absolution, de trop se prendre au sérieux. Hitman, ça fonctionne parce qu'il y a cet humour aussi, il y a cette espèce de côté un peu satirique,
décalage,
un peu parodique, qui permet justement de se détacher un petit peu de nos cibles, et de pas se dire que ce qu'on est en train de faire, c'est pris au sérieux par des gens, quoi.
Ah, et puis il y a toujours une promesse justement dans le niveau de dire, bon bah voilà, là c'est l'espèce de chanteur qui est tout en haut d'un hôtel, donc ça veut dire dire qu'il y a tout, enfin ça c'est à Bangkok, où justement il y a tout son staff qui sont en train de picoler ou je sais pas quoi, c'est le bordel, ils ont loué toute une aile de l'hôtel. Pour... Bref, en fait, chaque niveau a une espèce de promesse comme ça, de, à la fois de changement de décor, ça c'est vraiment le pilier du truc, je pense, le premier, le truc un peu d'appel, on va dire, de dire, bon bah voilà, je vais faire un peu du tourisme. Moi c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans le jeu, oh, t'arrives à Sapienza, c'est beau, voilà, tu te dis, en plus, bon, moi j'ai joué, là c'était le confinement et tout, donc là voilà, c'était ma seule occasion.
On peut sortir.
Ah, voilà, c'est incroyable. Il y a
après 18h.
Petits marchands de glace et tout. C'est fantastique. Mais il y a aussi voilà, toutes ces petites histoires. Il y a des situations particulières qui disent bon, bah, j'ai envie de découvrir un peu ce qui se passe derrière. Voilà, cette histoire de chanteur. Le truc avec le virus, là, qui a vraiment un côté James Bondesque où à la fin, on arrive dans une espèce de caverne qui est complètement aménagée pour fabriquer ce virus avec les combinaisons pour ne pas être contaminé et tout. En fait, à chaque fois, ils arrivent à la fois nous emmener dans une location, un lieu assez intéressant, mais en même temps, il crée une mise en scène, il crée une mini-histoire qui est toujours plaisante à découvrir.
Et ça, vraiment, bah, comme tu l'as dit, c'est un des piliers de ce Hitman 2016, c'est qu'à chaque niveau, moi, je les vois comme une espèce de petite fourmilière qu'on va pouvoir observer, parce que littéralement, il y a des centaines de détails, il y a des centaines de PNJ qui vont avoir leur petite routine, leur petite vie, et on peut, en fait, passer du temps à observer simplement les niveaux, et ça fait d'ailleurs partie de l'expérience.
Ouais, c'est la première phase.
La première phase en général, tu vois, un peu d'approche du jeu où tu vas bah, simplement regarder ce qui se passe, essayer de comprendre quelles sont les motivations, quels sont plutôt les lieux où tu vas pouvoir trouver la cible, observer cette routine et savoir à quel moment tu vas pouvoir t'y insérer pour foutre le bordel ou pour remplacer un PNJ ou pour tuer ta cible, etc. Enfin, c'est vraiment, il y a une phase d'observation. Moi, je vois vraiment ce jeu-là comme, tu vois, tu aurais une espèce de vivarium chez toi, on te l'offre et on t'en offre 6. Ils sont chacun complètement différents. Il y en a un qui se passe à Paris, un qui se passe à Sapienza. Etc.
Et puis en observant la fourmilière, tu vois qu'il y a vraiment des couches, tu vois, où il va y avoir telle zone qui est plutôt qui va être interdite aux gens entre guillemets normaux, enfin qui va être réservée plutôt aux employés, qui va être réservée plutôt à la garde rapprochée de la personne. Donc nous vraiment on va au début on va tourner un petit peu autour, on sait où est notre cible ou en tout cas on se doute d'où elle est. On parlera un petit peu des niveaux de difficulté, de vision d'aigle un petit peu plus tard, mais en tout cas on voit quelles zones nous sont restreintes au début et on observe vraiment ces couches. C'est vraiment du level design un peu en oignon, tu vois. On va comprendre que tel déguisement pourra nous emmener là, etc.
Et ça permet justement de soulever un truc qui est très intéressant avec Hitman et qui a toujours été quelque chose qui a traversé la série, c'est cette idée que certes, on évolue dans la haute société avec des gens riches, etc., mais comme on doit s'infiltrer et assassiner et donc se rapprocher au plus près, il y a toujours ce côté très terre-à-terre des niveaux de Hitman, où tu as peut-être à Paris voilà, un super défilé de mode, etc., mais bah, du coup, il y a des serveurs, il y a des éboueurs, il y a des gens qui sont là, tu vois, il y a toujours un dératiseur, il y a un plombier qui doit réparer un truc.
Il y a les gens qui amènent en fait tout. Bah, toute la logistique, en fait, il y a toujours cette partie logistique. T'as des petits camions, t'as des mecs qui livrent des trucs, qui livrent la bouffe, qui livrent des plateaux, des machins, bref.
Ça fait très l'ambiance de film d'espion où il y a toujours, tu peux toujours te déguiser. Oui, bah, ça tombe bien, il doit y avoir une révision de la chaudière, et donc c'est comme ça qu'on va pouvoir rentrer dans la banque.
C'est vrai que dans les films, c'est passer par les cuisines du restaurant ou l'hôtel.
C'est
un truc qui est assez commun, ce motif de pouvoir, ok, on passe un peu par les coulisses, je vais rentrer par les cuisines. Et c'est vrai qu'il y a tout le temps ça. Il y a un rapport assez intéressant qui est fait, je trouve, tout au long du jeu. Et c'est pas quelque chose que le jeu te met en avant, genre qui formalise beaucoup, mais en fait en traversant les niveaux tu le ressens beaucoup, cette espèce de petite stratification de la société, en fait, où t'as vraiment les petites mains qui sont en fait obligatoires pour faire fonctionner des trucs où justement il y a les grands qui sont un peu là-dedans, et ça va justement être un petit peu ces différentes couches, tu vas monter un peu dans la hiérarchie pour te rapprocher de la cible, quoi.
Et t'as aussi ce fantasme en fait en tant que personne de pousser la porte des employés, de savoir comment ça se passe en fait en coulisses, que ce soit chez le boucher, d'aller en arrière-salle, de voir comment c'est fait, d'aller dans les cuisines de tel endroit, ou sinon t'as Hokkaido, il est assez marqué, l'endroit des employés, enfin il contraste, je trouve, beaucoup plus en fait, parce que c'est une clinique de luxe,
high-tech,
vraiment avec des paysages de fou, tu vois. Et et t'as vraiment encore, comme on dit, les petites mains et tout qui vont discuter, qui parfois parlent justement un peu des clients machin, qui peuvent se plaindre. Et dans Hokkaido, j'avais trouvé cette zone assez marquante.
Oui, tu vas pouvoir entrer dans des caves, dans des trucs comme ça, et voilà, tout le luxe que t'avais au-dessus, tu vas tout de suite redescendre voilà à un niveau beaucoup plus terre à terre de la société, où ils sont en train de cloper, ils jettent leur club par terre, ils sont en train de discuter, ils boivent un petit coup. Tu vois que c'est pas rangé, parce que c'est pas fait pour accueillir le public, en fait. Et tu sens que t'es justement dans les coulisses, un petit peu dans les rouages qui font fonctionner toute cette machine en surface. Et ça, je pense que c'est vraiment ce qui donne des niveaux qui sont très cohérents et très vraisemblables, malgré tout le côté un peu goofy que peut avoir la série, parce que les IA, forcément, elles ont leurs limites, etc. On en reparlera peut-être. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des niveaux qui se tiennent très bien et on y croit en fait, même si c'est un peu pété, genre le virus dans les cavernes et tout. En fait, on arrive quand même à y croire parce que on nous a fait passer par le cuisinier qui est à chercher sa petite pas de la bolognaise. Enfin, tu vois, en fait, s'il y a une cuisine, bah il y a aussi un cellier dans lequel il y a la bouffe pour faire la cuisine, etc. C'est-à-dire que tout est réfléchi pour qu'il y ait une cohérence. Tu te dis, bah oui, les gens, faut bien qu'ils aillent pisser quelque part, il y a des toilettes, faut bien qu'il y ait des frigos pour réfrigérer les trucs parce qu'il y a de la bouffe et tout. Enfin, il y a toute cette espèce de.
On met tous les gens qu'on va défoncer. Ouais,
voilà. Ouais, beaucoup d'armoires et de coffres aussi.
Ouais. Oui, bon, ça, c'est obligatoire.
Il faut pouvoir ranger les gens, effectivement, quand ils sont morts. Mais c'est vrai qu'il y a toute cette réflexion-là et qui fait que c'est toujours plaisant, en fait, comme tu le disais, de juste se balader au milieu de cette fourmilière, d'en découvrir toutes les ramifications. Même d'ailleurs, je pense qu'en faisant beaucoup de niveaux, si tu te balades juste une fois, tu peux louper carrément des pans entiers du niveau sans trop t'y intéresser parce que tu t'es pas baladé dans ce coin-là et que t'en avais pas forcément besoin.
Et puis les discussions entre les employés, c'est l'occasion de découvrir ce qu'ils appellent donc les subplots, donc un peu les sous-intrigues, où donc on a l'histoire principale, comme on le disait, le mec qui développe son virus, la fille qui est là, elle appartient à l'organisation, elle est un peu là pour le surveiller parce qu'il est un peu instable émotionnellement, et en fait on découvre que il y a une histoire avec je crois sa mère qui est morte dans des conditions un petit peu étranges, et il est encore très choqué par ça. Et alors je sais plus exactement parce que je l'ai pas fait cette opportunité, mais il y a sûrement quelque chose à déclencher en fait, avec un truc, avec un rapport avec la mort de sa mère qui va le faire sortir de sa routine, et ça on l'apprend en écoutant les gens discuter.
Ouais, en fait au sein des niveaux il y a plein de petites mini histoires comme ça qui vont être plus ou moins liées aux cibles. Alors parfois c'est vraiment des histoires bidons, genre le mec, donc le fameux cuisinier la bolognaise qui veut pas aller bosser ce matin ou qui est en retard, et du coup bah hop, tu peux prendre sa place et y aller. Bien sûr c'est un cuisinier chauve, hein, évidemment, parce que sinon ça ne marche pas. Et après t'as d'autres histoires, voilà, qui sont beaucoup plus liées aux cibles. Je sais pas, il y a l'avocat qui va avoir rendez-vous avec une des meufs qui bosse à l'hôtel ou un truc comme ça, ou alors le chanteur qui veut chanter sur un micro un peu particulier, parce que c'est un modèle qui est plus très très réglementaire.
Enfin, non, mais tu le chopes ailleurs, tu peux
voilà,
le chopes ailleurs.
C'est un truc comme ça, une histoire comme ça.
Le chanteur, il y a justement ces fameux enregistrements audio avec sa copine, et tu peux un peu exploiter ça. Je crois si tu le fais boire, il y a un truc où il écoute ça. Enfin bref, il y a quelque chose. Ouais.
Bref, voilà, effectivement, il y a plein de petites sous-histoires en fait, qui vont tisser un peu la toile, toute la mise en scène. En fait. C'est un petit peu un théâtre finalement auquel on. Et il y a plein de petites intrigues à l'intérieur. Et souvent, ces intrigues, comme on le disait, elles vont être. Elles vont laisser une place pour ce qu'ils appellent donc des opportunités et des opportunités d'assassinat, simplement parce qu'on pourra soit isoler la cible d'une manière un peu assez pratique, soit ou alors on va pouvoir déclencher une séquence d'événements qui ferait qu'il y aura un malheureux accident au milieu parce que il s'était mis au mauvais endroit, il y avait un chandelier juste au-dessus.
Mais en plus, oui, ça arrive assez souvent parce que c'est là où on va pouvoir revenir un peu sur ce côté humoristique, parce que en fait, ce qui fait, je pense, une des grandes forces de ce Hitman-là, c'est la multiplication des possibilités de tuer les gens. C'est-à-dire que vraiment, il y a des tonnes de choses. Tu vas pouvoir trafiquer un conduit électrique, tu vas pouvoir empoisonner un cocktail, tu vas pouvoir empoisonner une sauce bolognaise, tu vas pouvoir leur faire tomber un piano sur la tête, tu vas pouvoir déclencher un. Tu sais ce que tu disais avec l'histoire d'un. Comment ça s'appelle, je crois, d'un truc de crash test ou je sais pas quoi, et en fait, comme par hasard, ils font une réunion juste à côté, et donc toi, tu
appuies
sur un bouton
et
il y a une sorte de bélier qui les écrase.
Au Colorado, juste pour préciser, ils font une espèce de simulation de prise d'otage, ou enfin, en tout cas, où ils arrêtent une voiture avec une espèce de bélier, et oui, ils font le briefing de fin d'entraînement devant le bélier, et du coup, ta main elle glisse, on va dire.
J'ai glissé.
Oui, oui, non, mais c'est ça, c'est qu'il y a aussi le truc, bon, évidemment, avec la balle de golf explosive, la Sapienza, enfin, voilà, il y a toujours ce côté
un peu chez les Looney Tunes, par
contre. Ouais, c'est ça, il y a un côté assez humour, en fait, et qui donne, en fait, cette tonalité très particulière à Hitman, et qui fait que, du coup, on y croit sans trop y croire, et c'est comme ça qu'on arrive en fait à s'imaginer, à donner envie tout simplement d'y retourner et d'essayer de découvrir les choses.
Mais c'est un jeu qui a conscience de ça, tu vois, tu sens que eux ils ont dit ok, on sait qu'on va faire de l'assassinat Looney Tunes et que ça va être un peu pété. Enfin, je sais qu'à Sapienza tu peux aussi te déguiser, tu sais, en docteur la peste, truc comme ça, tu sais, tu peux prendre comme ça une espèce de pose et surprendre le mec, lui faire peur et le buter comme ça. Et puis il y a le canon, tu peux tirer avec une espèce de vieux canon. Enfin, il y a plein de façons.
Et tu peux tirer au canon, parce que je crois qu'il peut s'enfuir en avion, et tu peux tirer sur l'avion en canon aussi.
Mais voilà, effectivement, il y a plein de trucs comme ça. Mais je pense qu'il y a vraiment cette volonté de nous surprendre avec toutes ces petites idées. Et surtout, je pense avec toute cette imagerie qu'on a justement de l'assassinat un petit peu comique comme ça. Et quand on voit un truc, on se dit « Attends, là, il y a peut-être moyen de faire un truc parce que c'est un peu grossier. C'est un peu grossier, mais tu le vois venir et tu te dis, bon, bah là, il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Genre, pendant le défilé, il y a une espèce de maxi structure de verre, en fait, qui tient au-dessus du fameux podium auquel le mec va faire une présentation. Tu te dis, bon, bah ça, peut-être
on peut mettre un explosif, tirer un truc. Bah, c'est ça, en fait. Il y a un côté drôle où tu te dis, bon, là, il y a un piano qui est en train de se suspendre à 15 mètres au-dessus de notre cible. Bah, forcément, on va pouvoir essayer de jouer avec. Et donc, le jeu va essayer de t'attirer et de te guider plus ou moins. Et ça, c'est une façon qu'ils ont de gérer la difficulté selon comment tu vas laisser le jeu te tenir par la main ou pas. Je sais pas si on peut en parler maintenant de cette idée d'opportunité.
Le plan, je ne sais pas.
Non, j'étais un peu en avance, c'est vrai que je suis un tout petit peu en avance, mais bon. Et donc, bah, on a qu'à en parler maintenant, effectivement. Donc, ce système d'opportunité, en fait, ça permet de rajouter une couche. C'est-à-dire que tu as la première phase d'exploration où tu peux être vraiment en mode la fourmilière. Et il faut imaginer une fourmilière où il y aurait des espèces de petites lumières qui s'affichent comme dans les musées, vous savez, où genre, regardez ici ce petit chemin. Et donc, en fait, le jeu va t'indiquer.
La reine passe tout le temps.
Exactement. Et donc, le jeu va te dire, bah, regarde, en fait, là, ce qui est en train de se passer, c'est que tel personnage, il va avoir un rendez-vous avec tel mannequin qui, comme par hasard, est chauve et ressemble beaucoup à Hitman. Et donc, bah, peut-être que c'est le moment de créer une rencontre entre les deux et tu pourras le tuer à ce moment-là. Et donc, en fait, le jeu va nous donner soit la possibilité d'observer complètement notre environnement et d'essayer de comprendre ce qui se passe, il va nous donner des indications si on le souhaite, si on l'active avec ces histoires d'opportunités, et en dernier recours, en fait, après, le jeu va nous faire confiance, nous lâcher un petit peu en disant, bah, maintenant qu'on t'a montré tout ça et que tu commences à un peu comprendre les rouages de ce niveau, jusqu'où tu veux aller pour essayer de découvrir justement tous ces petits subplots et toutes ces petites
choses. À quel point le jeu va te tenir la main, en fait, ce système d'opportunités, c'est un petit peu le mou qui te donne comme ça. C'est est-ce qu'on te laisse complètement en free ride, genre débrouille-toi, on te dit rien, ou alors à l'inverse, le jeu peut vraiment te prendre énormément par la main où tu dis bah, je suis telle opportunité, en gros je vais suivre bah, ce sous-fil narratif du truc pour pouvoir atteindre une des cibles. C'est vrai qu'on l'a pas mentionné ça, mais dans chaque niveau il y a toujours plusieurs cibles. C'est vrai qu'il y a quand même un niveau de complexité qui est assez important. Je pense qu'on peut le lier au business model en fait, hein, qui était vraiment de dire bah voilà, on va sortir un épisode. Il fallait quand même que les épisodes soient assez touffus pour justifier en fait qu'ils existent en tant qu'épisode. Du coup, c'est vrai qu'ils ont vraiment fait le choix de dire bah, chaque niveau il y a plusieurs cibles, alors que c'est vrai que alors c'est déjà arrivé hein, dans Hitman qu'il y ait plusieurs cibles sur un seul niveau, mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de niveaux où c'était juste un mec à tuer et voilà. Là, il y a une complexité suffisante. Et du coup, c'est vrai que bah, c'est foisonnant. C'est vraiment fourmillant comme ça d'informations, de PNJ, de trucs. Et du coup, ces opportunités sont là un petit peu pour bah, nous cadrer plus ou moins là-dedans.
Et là où ils ont aussi complexifié le truc, c'est que les IA ont vraiment leur comportement. Enfin, les cibles ont vraiment, elles ont donc leur routine. Et il y a un truc bah, assez codifié, hein, ça va être le cas pour à peu près tous les niveaux. Donc, ils ont chacun une routine qui va être genre, la personne va checker son ordi, elle va fumer une clope, elle va se mettre au bord d'un truc. Et en général, chacune de ces étapes va être l'occasion, soit bon déjà de la tuer, hein, si elle fume, par exemple il y en a une, c'est à Sapienza, à un moment vraiment elle fume une clope, tu peux remplacer ça par un joint, et en fait ça la fait vomir, ça la rend malade, et elle va aux toilettes pour vomir, c'est le moment de la tuer. Ou à Paris, il y a le mec qui se bad, et à un moment il a un cocktail, là c'est plus une opportunité, c'est un peu plus narratif, parce qu'il faut apprendre la recette du cocktail, lui servir le cocktail, donc soit empoisonné, soit aussi qu'il va le faire vomir, et on le finit dans les toilettes. Et donc chacune de ces, il y a plein d'occasions en fait dans leur routine. Il y a aussi des moments où on peut carrément interrompre toute la routine. C'est vraiment un événement extérieur. À Paris, tu peux enclencher l'alarme, ça le fait cacher dans son bunker.
Ça déclenche d'autres routines en fait. Voilà. Ça les lance sur une autre. En fait, ils ont chacun leur ronde, parfois plus ou moins large. Hein. Il y a des personnages, alors ils expliquent ça dans le.
Il y a le dweller et le roamer. Le dweller, c'est celui qui va rester en général dans la même zone, vraiment au même endroit. Typiquement, la fille dans Paris, elle est dans deux salles, je crois.
Ouais, elle fait une petite ronde dans deux, trois petites pièces comme ça au dernier étage.
Et
le
mec, c'est un roamer, donc lui, vraiment, il couvre beaucoup plus de zones. Il fait quasiment tout le rez-de-chaussée, j'ai l'impression. Après, j'imagine qu'il y a certaines IA, c'est un peu entre les deux, c'est pas codifié comme ça, mais c'est les deux extrêmes.
C'est vrai que si on regarde, tu vois, je repense là à Bangkok, c'est vraiment très similaire, où t'as vraiment l'avocat là en bas qui fait vraiment tout le temps cette espèce de grande ronde au rez-de-chaussée et qui dit alors quand c'est que ma chambre est prête, non désolé, elle n'est pas encore prête, et puis après il va téléphoner
et il goûte un petit sushi, voilà, ouais, c'est machin, ouais.
Et à l'inverse, il y a le chanteur qui va avoir vraiment son petit truc en haut, il va alterner des phases où il papote dans cette espèce de grande cube en verre là, cette espèce de terrasse intérieure qui est très joli d'ailleurs, et le studio d'enregistrement où il enregistre deux, trois paroles, voilà, il fait des trucs de rap, j'imagine, et après il repart.
Et le mec du rez-de-chaussée, tu peux du coup casser cette routine en lui disant que sa chambre est prête.
Exactement.
Du coup, ça l'amène, pour le coup, il fait plus du tout ce qu'il faisait avant, il va dans sa chambre, ouais, et là tu peux le tuer.
Exactement.
Et tu dois d'ailleurs nettoyer pour lui, tu dois nettoyer sa chambre, ah parce ouais. qu'il est vraiment très exigeant, et là il y a un peu ce côté encore la haute et les petites gens, où il dit « Ah, mais il y a la poussière sur ce bureau, et du coup tu dois nettoyer », et en fait je crois que tu le fais 3 fois, tu vas nettoyer des trucs, et il est satisfait, et après là, et je pense que c'est peut-être le moment aussi où tu commences à en avoir marre ouais. de lui, et là t'es bien content de les zigouiller.
Mais ça ils aiment hein, nous faire, justement, ils nous donnent pas juste le déguisement, il y a vraiment plein de moyens de littéralement incarner le jardinier, le cuisinier, tu fais le truc, tu vas toi en fait assumer une routine pendant un petit moment, et puis ensuite bah, quand tu auras l'opportunité, parce que pour que l'opportunité arrive, il faudra parfois jouer ce rôle un peu plus longtemps que simplement en étant déguisé, et ça c'est vrai que c'est assez rigolo, parce qu'il y a plein de petites interactions, tu vas pouvoir nettoyer des tables, tu peux jouer le serveur, machiner, donc ça c'est vrai que c'est
ouais, tu vois
sympa.
Qu'il sait faire des shakers comme ça avec des cocktails,
il sait tout faire.
Oui c'est vraiment
c'est Jarod,
hein.
Ouais, ouais, c'est
vraiment
le caméléon,
il sait tout faire, il sait défiler, bah ça aussi c'est vraiment, en fait quand tu te déguises, tu vas te mettre, il commence à te maquiller, forcément tu te dis bon, est-ce que je peux défiler? Bah oui, bien sûr, tu peux défiler. Et ça, c'est vrai que c'est... En fait, ils placent des choses qui ne servent à rien, littéralement. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a fait pas avancer le plot. Par contre, tu kiffes rentrer dans le personnage. Il y a ce petit plaisir comme ça de la transgression, de dire bah, c'est... je joue le rôle d'un autre personnage. Et ça, je trouve qu'ils arrivent vraiment bien à le faire quand c'est bien fait comme ça. Bien sûr, c'est un peu cadré, hein, c'est très scripté, mais je trouve que ça marche super bien.
Et c'est pour ça que c'est pas, entre guillemets, enfin, j'allais dire, c'est pas vraiment un jeu d'infiltration, mais en tout cas, il se démarque beaucoup des jeux d'infiltration puisque tu vas vraiment t'exposer au public, tu vas ouais, avoir tel ouais. déguisement et tout. Enfin, c'est vraiment, c'est comment être à l'aise dans la foule, en fait. C'est plutôt ça, les mécaniques d'infiltration.
Ouais, c'est d'ailleurs un truc qu'ils ont rajouté par la suite, où l'idée que quand tu te balades dans un groupe de gens, en fait, tu peux être un peu ouais. isolé au milieu de ça. Il y a une espèce de cercle qui est apparu.
Comme Assassin's Creed.
Voilà, exactement. Ouais, le côté, bah, c'est le côté, tu sais, hidden in plain sight. Quoi, ouais, c'est-à-dire, tu es caché à la vue de tout le monde, parce qu'au milieu des gens, on te voit un petit peu moins. Et ce qui est cool avec cette IA, c'est que ça fonctionne vraiment sur plein de niveaux différents, puisque bah, on va avoir chaque type d'IA qui va fonctionner un peu différemment. Ouais. Donc, tu as effectivement les cibles, mais tu vas avoir les gardes qui vont t'empêcher d'entrer à un endroit. Tu vas voir ceux qui sont en train de faire leur routine parce que bah, c'est des cuistots, ils font leur petite vie, ils prennent des pauses,
ouais,
etc.
Puis t'as juste la foule, les ouais. gens qui sont là en fait, genre
juste
les clients
balader,
d'un hôtel, les gens qui sont à la représentation. Et ça d'ailleurs c'est intéressant, c'est vraiment en fait tout ce, toute cette matière comme ça à un DIA, en fait c'est quelque chose qu'ils avaient travaillé déjà sur Absolution et ils ont pu donc beaucoup recycler des choses. C'est, en fait, bon, le temps qu'ils ont passé, ça a été très difficile sur Absolution, mais malgré tout ils ont quand même pu capitaliser justement sur tous ces outils qu'ils avaient créés à leur disposition, que ça soit sur à la fois la manière dont les personnages, tous les PNJ vont réagir à nos actions, mais aussi leur manière de circuler comme ça dans l'espace. C'est plein de choses qu'ils avaient déjà, des outils qu'ils avaient déjà développés, et c'est peut-être aussi pour ça que ça a pu aller aussi vite finalement sur cette formule. Finalement, c'est plus à un niveau vraiment game design qu'ils ont peut-être dû galérer et essayer vraiment, c'est un niveau conceptuel, alors que les outils techniques, en fait, ils étaient déjà là et ils ont pu vraiment les réutiliser.
Ce qu'ils expliquaient, c'est qu'après Absolution, en fait, comme ils avaient changé de version de moteur, il leur manquait par contre, ils avaient des outils sur la gestion des foules, des IA et tout ça. Par contre, il leur manquait ce côté un peu sandbox et dans la gestion des niveaux, puisque ouais. bah, c'est un des trucs sur lesquels ils ont évidemment beaucoup travaillé. La conception des niveaux dans Hitman, c'est ça qui fait la différence entre un Absolution ou un Blood Money. Ouais. C'est la taille du niveau et ce côté vraiment bah, fourmilière géante dans laquelle on va se balader et il va s'y passer des tonnes et des tonnes de choses. Et là-dessus, ils en parlent également dans le documentaire No Clip. Ils ont en gros deux grandes familles de niveaux. Je ne sais pas si tu voulais les présenter, peut-être
bah,
Max, parce que c'était
veux,
ton
ouais.
truc. C'était toi qui avait suivi ça au départ. Donc ils ont soit ce qu'ils appellent les forteresses, soit ce qu'ils appellent les maisons d'escargots, les snail house.
Voilà.
Et je vais te laisser te débrouiller avec ça.
Ce qui est embêtant, c'est qu'ils n'expliquent pas vraiment conceptuellement ce que ça veut dire en ouais. termes de level design, mais les exemples qu'ils donnent, c'est que Paris, par exemple, c'est une forteresse. Donc ouais. j'imagine que c'est le côté, c'est assez compartimenté, t'as moins de sorties, on va dire, par salle, tu vas peut-être plus souvent te retrouver face à des cul-de-sac, entre guillemets, ça va être plus un étage, enfin plus des angles droits, etc., plus sujet à faire des demi-tours, où tu vas avoir la cible qui est derrière peut-être plusieurs niveaux en ouais, fait, ouais. De sécurité, alors que le côté maison d'escargot, il y a cette idée que, déjà, tu vas avoir l'impression, tu peux tout le temps marcher, en fait, tu vas avoir beaucoup plus de virages, mais aussi beaucoup plus de sorties, je pense, et d'entrées dans les salles, et vraiment pouvoir quasiment tout explorer sans avoir l'impression de t'enfoncer, en fait, dans quelque chose, sans forcément que ce soit une spirale, évidemment, comme une coquille d'escargot. Et cette coquille d'escargot, elle est aussi combinée à ce qu'ils appellent le Swiss cheese, donc nous, on dirait le gruyère, hein, pour les trous. Et là, c'est Mark Brown qui, lui, dans une vidéo, faisait le parallèle avec Ikea, Ou c'est cette idée, bah, dans Ikea, je sais pas si vous voyez, mais c'est pas, par exemple, il n'y a pas une allée centrale.
Attention,
et à un moment...
on spoil.
Ah oui,
Ikea.
Il faut parler. Non, mais c'est intéressant.
Voilà,
il faut
si
parler
vous avez
du
pas
level.
Fait Ikea,
bah, ouais,
non, mais... Ah, mais le level design d'Ikea est très très intéressant.
C'est pas comme au supermarché où il va y avoir une allée centrale et à un moment à votre gauche il y a la salle de bain, à un moment à votre droite il y a le salon. Non, non, c'est pour les gens comme moi, c'est horrible. C'est-à-dire pour les gens qui savent ce qu'ils veulent acheter avant d'y aller, c'est atroce. Mais pour les gens qui aiment papillonner, c'est parfait puisque.
Quel enfer.
Ouais, mais parce
Mais il y a des raccourcis partout.
Mais oui,
non, mais je sais. On va y venir.
Mais c'est cette notion que pour arriver en fait à la salle de bain, donc à cette grande salle où il va y avoir plein de meubles de salle de bain, et voilà, pour vous donner de l'inspiration. En fait, vous allez devoir passer par la chambre,
par le
bureau,
salon,
etc.
Voilà,
parce que
il y a un
pas,
parcours en fait fléché
ah oui,
tout au sein du. En fait, on tortillonne. C'est un Metroidvania à l'intérieur du truc, et on va nous faire tout ça parcourir, mais. Comme tu le dis, il y a des raccourcis, en fait, il y a des petites allées que tous les employés connaissent et que toi, tu peux peut-être les repérer pour complètement casser, créer des raccourcis Dark Souls. D'ailleurs, il y a une conférence, un GDC, qui s'appelle « Why Dark Souls is the IKEA of Games », donc ça existe. Hein. Et voilà, il y a des raccourcis qui permettent en fait, de briser justement tout ce parcours-là. Et c'est un peu la même chose dans Hitman, en tout cas sur cette typologie de level design, où en fait, au fur et à mesure qu'on s'approprie le niveau, on va se dire « Ah ouais, mais attends, si je passe juste par là, je vais pouvoir casser, je vais pouvoir justement contourner toute une partie du bâtiment et arriver directement là. Et soit ça va être, je sais pas, en grimpant à un tuyau, en passant par, je sais pas, une fenêtre et en descendant, tu vas pouvoir squeezer comme ça, zapper des parties du parcours. Et ça qui rend le
ou des fois, ça va être bêtement lié au costume, parce que les costumes vont te permettre du coup de t'infiltrer directement. Parce que si tu arrives à choper le costume de la zone X, mais que d'habitude, bah, il faudrait passer par plusieurs étapes avant d'y arriver, tu peux d'un coup filer tout droit et y aller directement.
Et encore une fois, je suis pas sûr que l'intégralité des niveaux, on puisse dire ça c'est forteresse, ça c'est coquille d'escargot.
Oui.
J'imagine
c'est
un petit peu entre les deux.
Voilà,
mais il y a quand même, ils disent Paris c'est forteresse, Sapienza c'est coquille d'escargot. Et pour le niveau de Miami par exemple, qui est en deux, il y en a un qui est plutôt forteresse.
C'est dans Hitman 2.
Oui, Hitman 2, donc Miami, le premier niveau d'Hitman 2, qui est vraiment en deux parties. Il y en a un qui est plutôt forteresse et l'autre, plutôt coquille d'escargot ou peut-être un peu entre les deux. Quoi.
En tout cas, voilà, ça leur permet de concevoir les niveaux, parce que du coup, c'est vraiment ça en fait qui va déterminer le temps qu'on va y passer. Parce qu'en fait, plus le niveau il va être complexe, mais plus il va y avoir de possibilités. Parce que si vous voulez juste nous faire un énorme labyrinthe, on sait faire un énorme labyrinthe, tu vois, où on est perdu, ça serait pas forcément très intéressant. Là, ce qu'ils doivent réussir à faire, c'est à la fois faire cohabiter donc ces petites opportunités, ces côtés un petit peu humoristiques, tout en imaginant comment on va pouvoir se balader et découvrir tout ça. Donc c'est pour ça que cette idée de faire de l'épisodique avait du sens, même d'un point de vue créatif, parce que pendant quelques mois, ils pouvaient se concentrer sur un seul niveau, ils mettaient une équipe dessus à fond, et ils ne bossaient que sur ça.
C'est vrai que quand on joue à ce jeu, on sent qu'il y a une formule en fait qui est vraiment qui est maîtrisée, qui est pensée, tu vois, qui a vraiment été intellectualisée, parce que quand tu balances des trucs genre Dweller, Roamer, Snail House, la forteresse, ça me fait un peu penser, tu sais, à ce qu'on avait raconté sur Doom 2016, où ils avaient pensé aussi des noms de typologie d'ennemis, des noms de types d'armes pour eux en fait arriver à se repérer, à se dire ok, c'est quoi un peu notre boîte à outils pour créer nos niveaux, pour créer nos situations de jeu. Et là, j'ai l'impression que c'est un petit peu pareil, c'est des gens qui ont vraiment, je pense déjà, c'est vrai qu'on l'avait dit, c'est pas il y a pas beaucoup de gens qui ont bossé sur les premiers Hitman au sein de IO, mais il y avait tout cet amour pour ces jeux-là, hein. C'est pas pour rien qu'ils ont rejoint l'entreprise, j'imagine, et c'est vrai que du coup, on sent qu'il y a une formule qui est arrivée, enfin moi j'ai l'impression qu'elle est arrivée vraiment à maturité, où tu sens que c'est maîtrisé, c'est carré, ils savent ce qu'ils veulent faire, ils ont une façon de faire, et en fait, c'est ce qui leur permet de réitérer cette formule sur tous les niveaux, et qui fait que du coup ça devient peut-être même un peu trop systématique au fur et à mesure du niveau. En tout cas moi c'est le ressenti que j'ai eu. Quand j'ai commencé le jeu, j'ai fait waouh, c'est incroyable, j'étais là sur Twitter genre c'est du level design porn, c'est incroyable ce que ces gens là ils font, et je le pense toujours, hein. Je pense qu'il y a vraiment ils ont un talent et une science de faire quelque chose qui est vraiment unique, mais par contre plus tu avances dans les niveaux, plus tu commences en fait à comprendre leur rouage, leur formule, leur façon de faire les choses. Et c'est vrai que quand j'étais dans la deuxième partie du jeu, tu vois, les trois derniers niveaux, ça a été plus laborieux, j'en avais un petit peu marre, parce que finalement à chaque fois tu retrouves ces strates, voilà, il y a les petites mains, je vais commencer par là et ensuite je vais pouvoir remonter les échelons, il y a les grosses opportunités, je les vois, il y a cette opportunité, je choisis et je fais mon niveau. Donc il y a quelque chose d'un petit peu systématique, de récurrent qui se retrouve tout au long des niveaux, qui fait que Cette structure particulière, elle est unique, mais en même temps, elle peut avoir des faiblesses.
C'est un peu le revers de la médaille de cette idée d'épisodique, ouais. C'est-à-dire qu'avec un seul niveau, avec Paris, en fait, ils devaient déjà convaincre les gens. Et donc, ouais. En fait, avec Paris, il fallait qu'ils balancent toutes leurs cartouches dès Paris. Et il fallait que tu saches si ça allait te plaire ou pas. Et si t'accroches, ben, c'est génial parce que tu vas avoir plein d'autres épisodes où ça va être à chaque fois une nouvelle découverte, une nouvelle zone, des nouvelles histoires, des nouvelles manières de tuer, etc. Et si... un peu plus comme nous on l'a ressenti, bah, une fois que t'as fait quelques niveaux, ça y est, t'as compris la formule, c'est vrai que rapidement au bout d'un moment il y a une espèce de lassitude parce que la progression est pas celle d'un jeu qui sort d'un seul tenant, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'idée d'avoir alors évidemment si je parle en termes de RPG c'est tu vas gagner des niveaux, tu vas avoir des nouvelles compétences, là c'est juste que bah, t'as terminé ton niveau
qui monte en fait tout au long et qui fait qu'à la fin du jeu logiquement tu es au point culminant de complexité et de profondeur du jeu, que voilà tu maîtrises tous les outils, c'est pas comme ça, là tu vas faire ça mais sur un seul niveau. À Paris, logiquement, quand t'es arrivé à finir le truc, bon, alors logiquement, faut le recommencer, hein, y a un petit peu de cette philosophie-là, on reviendra dessus, mais ensuite, tu redescends tout en bas de l'échelle d'apprentissage,
de zéro, de connaissance,
voilà, c'est ça.
Et t'as pas, il va falloir redébloquer les mêmes armes, il va falloir que tu re-accèdes à des nouveaux points de chute pour pouvoir démarrer les niveaux dans d'autres endroits, il va falloir que tu débloques des caches dans lesquelles tu vas pouvoir mettre tes fusils sniper, des armes, etc. Donc, à chaque fois que tu recommences de zéro, ça peut, en fait, avoir du sens si t'es dans une logique de tous les deux ou trois mois, tu joues au jeu et t'y joues une semaine et tu passes une semaine dessus non-stop, mais dans les faits, comme c'est pas comme ça que ça s'est vendu et ça a fonctionné, ça leur a peut-être un peu joué des tours par la suite.
Bah, ouais. Comme on l'a dit, il y a déjà un schéma qui est très récurrent, c'est que bah, incarner le fameux chauve qui va s'approcher de la cible, bon, bah, à Paris, voilà, tu peux être le modèle qui va se rapprocher
Victor.
De la meuf, à Sapienza, tu peux être un psy, à Bangkok, tu vas être le batteur, au Maroc, tu vas être le masseur, je sais pas, mais déjà, ça fait déjà 4, tu vois, sur 6.
Non, mais il y en a 4.
De toute façon, il y a toujours un personnage qui est chauve, blanc, et qui ressemble beaucoup
qui
à Agent 47,
et qui a un rôle...
Qui, comme par hasard.
Voilà. Dans, ouais, je suis pas sûr qu'il y ait ça au Colorado et à Hokkaido, il y a peut-être un. Tu peux incarner le cuisinier, je crois, quand même, à Hokkaido, mais et ce sera toujours un moment où tu vas approcher la cible, et c'est bon, elle va se mettre vulnérable. Tu vois, vraiment, c'est le cliché, c'est vraiment à Bangkok où t'es le batteur, il dit « Ah, viens, on va discuter, machin, il y a ses gardes qui le suivaient jusque-là, là, il décide de rester, il dit « Ouais,
laissez-nous tranquille. »
Et il se pose, voilà, il se pose au bord de la rambarde, et voilà, tu peux le pousser.
Regarde ce 78e étage, comme c'est intéressant.
Tu sais que j'ai même, vraiment, au stade de Bangkok, j'ai trouvé ça tellement... chiant que j'ai décidé de pas le tuer comme ça, je me suis dit non c'est fade, c'est chiant, et j'ai décidé de le tuer autrement parce que oui. ça m'a saoulé.
Je suis Hitman, j'ai
une exigence dans l'assassinat,
c'est une passion avant tout, c'est pas un métier, et ça c'est pas fun de le tuer.
Moi je pense que ce sont des rencontres.
Mais en tout cas ouais, moi ça m'a un petit peu lassé d'avoir toutes ces situations qui se ressemblent un petit peu, comme on l'a dit, il y a pas vraiment de progression ou vraiment d'évolution. Il y a du changement avec les décors, mais vraiment en termes de système de mécanique, c'est toujours un peu pareil, malgré le fait qu'il y ait un peu... il n'y a que deux types de level design ou de comportement d'IA, et encore les deux comportements d'IA, tu les as dès le premier
des
niveau.
Cibles, hein, des cibles, hein, parce qu'après, il y a beaucoup d'autres comportements.
Oui, pardon,
voilà,
mais des cibles, le côté routine que tu peux interrompre, nanani, nanana. J'aurais aimé plus de variété, en fait. Autant Hokkaido, il y avait une idée intéressante, même Colorado, il y avait une petite idée où il y a quatre cibles, en fait, c'est la première fois vraiment que t'as quatre cibles, mais en fait, c'était quatre mini hitman imbriqués l'un dans l'autre, et donc en fait, tu continues de faire tout ce que t'as toujours fait jusqu'à présent. Hokkaido, il y a le mec qui se fait opérer, donc il y a un côté un petit peu plus, c'est une cible statique pour le coup, et faut trouver un petit peu comment la tuer, est-ce que tu vas pas vraiment rentrer et le tirer dessus. Alors je pense que théoriquement tu peux, mais bon, comme dit, moi c'est une passion, faut un peu plus de finesse, mais du coup, c'est un petit peu plus innovant, mais c'est pas non plus révolutionnaire. C'est vrai que bon, Hitman 1, j'ai eu un peu de lassitude vers la fin. Sans trop en dire, visiblement dans Hitman 3, il twist un petit peu la formule, et ça m'intéresse beaucoup plus d'avoir du vrai changement, mais j'ai l'impression que jusqu'au 2, c'est un petit peu dommage, et ça se voit, de toute façon, tu l'as déjà dit, dans la production, c'est-à-dire qu'il va y avoir une team, elle va bosser pendant presque un an sur un niveau d'Hitman. Pendant ce temps, il y aura 2-3 teams qui vont bosser chacune sur leur niveau, et ils bosseront en fait maximum sur 2 niveaux, en fait, chacun, et à la fin, ils comparent, ils vont dire « Ah, t'as fait ça, ah, c'est pas mal comme idée et tout », du coup, forcément, il y a peut-être moins d'expérience en fait acquise, et il a fallu attendre le 3 avant qu'ils se disent « Bon, on a des vraies bonnes idées à mettre en place ».
Moi, le truc, je pense, qui m'a le posé le plus de difficultés, finalement, c'est que c'est un jeu qui est très slow-paced, c'est lent à jouer, parce que bah, comme c'est toi qui t'imposes ton propre rythme, en fait, comme tu es lâché complètement libre, et c'est vrai que je trouve qu'à rentrer dedans, encore une fois, tu vois, quand je recommençais un niveau pour me remettre dans le bain, de dire « Bon, bah là, c'est parti, je vais devoir me relaisser un peu submergé par toutes ces informations », parce que c'est ça, en fait, c'est faire le tri parmi une densité d'informations qui est trop importante au début et après s'approprier un petit peu tout ça. C'est vrai qu'à la fin, j'en avais un petit peu... Je trouve que c'est pas un jeu qui est... qui est facile à jouer dans le sens, tu sais, qui se laisse jouer comme ça. Pour moi, c'était difficile de faire des grosses sessions et tu sais, ça me demandait une énergie. C'est pas un jeu qui est genre, tu vois, c'était pas Hades. En fait, je jouais en même temps à Hades et Hades, c'est bam, je dois lancer la console et bim, je suis dans l'action, je suis dans le machin et c'était très 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 viscéral comme ça. Du coup, pour moi, c'est beaucoup plus facile à jouer qu'un jeu Hitman, et surtout que comme il faut recommencer à chaque fois, tu vois, c'est pas genre Outer Wilds, je me dis bon bah voilà, il y a un début, il y a une fin et je vais faire le grand truc et je sais que je progresse, etc. Là, faut recommencer 6 fois, et cette espèce de throwback comme ça en arrière à chaque fois, je pense que ça m'a pas mal rebuté et qui a fait que bah, au final j'ai eu du mal à aller au bout du jeu.
Ouais, moi je suis un peu dans le même délire, c'est-à-dire que c'est un jeu que en fait c'est assez paradoxal parce que je sais que c'est un jeu que je trouve brillant, tu vois, ouais. J'adore en parler, ouais, j'adore le regarder, ouais. J'adore regarder des gens faire des trucs rigolos ou regarder les vidéos, tu vois, de Game Maker's Toolkit qui en parle, etc. C'est toujours très intéressant d'écouter des gens en parler, mais y jouer, au bout d'un moment, ben, je reste un petit peu sur ma faim. Et je pense que ça, ils en avaient conscience parce qu'ils ont vraiment retravaillé leur système de difficulté par rapport aux autres jeux, où ils vont vraiment nous laisser en fait des curseurs, déplacer les curseurs très librement vers le côté on nous tient par la main ou pas du tout, avec ces idées d'opportunité, voilà, où on va pouvoir vraiment choisir de tout afficher ou de rien afficher du tout, et dans ce cas-là, c'est nous qui nous débrouillons.
Et t'as un entre-deux hein, aussi.
Et t'as une espèce d'entre-deux, et je pense que ça a été affiné par la suite avec Hitman 2 et Hitman 3, parce que c'est vrai que moi j'avais un peu du mal avec le 1 à me décider, tu vois, c'est-à-dire comment je veux jouer au premier. Tu vois, j'aurais aimé que le jeu me dise la première fois, il vaut mieux que tu joues comme ça, et ensuite peut-être tu pourras jouer de cette manière-là.
Dans le problème, 2, c'est ce qu'il fait. Ouais.
C'est que, d'accord, bah du coup, tu vois, ça je l'ai pas fait, mais dans le 1, bah, une fois que t'as fait une opportunité, t'es là, bah, j'ai tué la cible, donc pourquoi j'y reviendrai? Et ça, c'est un truc où si t'as pas le déclic du j'ai envie d'aller voir, ça, j'ai envie de débloquer les trucs, j'ai envie de débloquer les armes et de découvrir tous ces petits subplots, le jeu te lâche instantanément. Alors tu t'es amusé jusqu'à présent, donc c'est pas, en soi c'est pas grave parce que ça restait bien, mais j'ai pas réussi moi à vraiment tu vois péter cette espèce de mur où je veux vraiment y aller. C'est-à-dire que je l'ai fait
sur un
Paris
niveau, ouais,
voilà, moi je l'ai fait sur Paris, ouais. Vraiment je l'avais fait dans tous les sens à l'époque, et après bah je les faisais une fois ou deux puis ça suffisait quoi.
En fait, pour entre guillemets vraiment profiter de tout ce que le jeu a à offrir, il y a un vrai investissement en fait cognitif à mettre, et ça peut venir que de nous en fait, même s'ils peuvent baisser un peu la difficulté, puisque l'opportunité, donc parler un peu du niveau des potards, c'est que si le jeu il est vraiment, on va dire, en super facile, c'est-à-dire que tu passes à côté de gens qui parlent, il va te dire hop, cette opportunité, ça veut dire que tu peux faire ça. Il faut que tu fasses ça. Il va te dire où tu dois aller, c'est même indiqué sur le HUD, il va dire bah va là, fais ça, va là, fais ça. Il te prend vraiment complètement par la main. Et l'autre extrême, c'est que t'auras rien, pas de minimap, pas de vision d'aigle, parce que aussi dès le début, tu peux activer la vision d'aigle pour voir où est ta cible, à travers la mur, à l'autre bout de la map, puis ok, elle est là-bas, en hauteur.
Tu peux voir même les objets avec lesquels tu peux interagir, ça peut faire la différence. Ouais, te dire, bah tiens, il y a une Morora, parce que c'est une petite boîte, bah tu peux la repérer de super loin, alors que tu pourrais carrément passer à côté en sans ça.
Rien que savoir où est ta cible, ça te décharge quand même vachement, déjà, en termes de. Parce que c'est quand même des grands niveaux, là, à Miami, comme dit, il est vraiment séparé. Déjà, il faut comprendre que le niveau, il est séparé en deux. T'as vraiment la piste de course qui sépare en deux, faut passer par des arches et tout. Bon, déjà, t'as toute cette charge, en fait, qui t'est enlevée, mais. Ça veut pas non plus dire que c'est l'éclat total, tu vois, parce que justement, il y en a pour qui le plaisir, ça va être de découvrir, de vraiment explorer, de comprendre comment le niveau fonctionne et tout, et là, il n'y a pas de recette miracle, en fait, ça doit venir de toi.
Mais par contre, si c'est votre cas, là, vraiment, je pense que c'est des jeux qui doivent plaire aux gens, et c'est pour ça, en fait, je pense que la série, par la suite, elle a vraiment repris, en fait, tout simplement, elle a vraiment réussi à retrouver sa forme, parce que en termes de contenu, c'est ultra généreux. Ouais. C'est-à-dire qu'une fois que le jeu, il était sorti, bah, pour les gens qui étaient à fond dedans, il y avait ce qu'ils appelaient les cibles Elusive Target, donc qui était là pendant une semaine ou deux. Il y avait un nouveau PNJ qui venait se rajouter par-dessus une ronde, et donc ça te forçait à revoir le niveau. Il y avait des contrats également, avec des défis que les gens ils peuvent se mettre entre eux, en mode bah il faut que tu tues tel personnage, un peu en mode Cluedo, il faut que tu sois habillé de telle manière et à tel moment tu vas tuer tel PNJ. Et donc en fait, pour les gens qui sont vraiment accrochés, le jeu est ultra généreux et propose un contenu absolument, enfin vraiment, je cherche un adjectif, je l'ai pas, mais vraiment voilà.
Chaque niveau est d'une il y a une vraie richesse dans ces trucs, toutes les opportunités. Tu sais, quand tu termines un niveau et que tu vois en fait que tu n'as que gratté la surface, parce qu'en fait tu pouvais faire ci, tu pouvais faire ça, tu pouvais faire ci, tu pouvais faire ça. Après, moi j'ai le truc, c'est que quand je vois les opportunités, je fais ah, ça aurait pu être cool, mais j'ai l'impression qu'on m'a donné, tu sais, une partie un peu du magic trick, tu vois, qu'on m'a donné tu sais, quand on parle de jeux vidéo, de qu'est-ce qui te motive à jouer, il y a deux choses. Il y a les motivations extrinsèques, donc ça va être les récompenses, genre je vais accumuler des trucs, ou les motivations intrinsèques, genre je prends du plaisir pour faire tel truc. Et je pense que moi, me dire, bah, tu pouvais faire ça, en fait, tu m'enlèves une grosse partie du plaisir intrinsèque de dire, ah bah ok, c'est cool, ça existe, tu vois, mais autant regarder juste une vidéo et voir que c'était rigolo, plutôt que de le faire moi-même, je retrouve pas ce plaisir-là.
Nous, on est plutôt d'accord là-dessus, enfin, en tout cas, on a eu cette impression-là que l'exécution, en fait, dans Hitman, elle était moins intéressante que la découverte. En
c'est
fait,
ça.
Que de... Parce qu'à partir du moment où tu mets le canon qui vise vers l'ennemi et il y a la poudre à canon et un boulet de canon à côté, en fait, c'est bon. J'ai pas besoin de lui tirer dessus parce que ça va pas me faire.
Ouais,
j'ai pas
lui tirer dessus. Tu sais juste que c'est là, en fait. Appuyer, tu dis, bon, là, c'est là.
Appuyer sur X pour lui tirer dessus. Je sais pas, je trouve pas ça particulièrement plaisant. Par contre, me dire, ah, c'est marrant, on peut lui tirer dessus au canon, c'est cool. Mais comme on disait, en fait, il n'y a pas de créativité personnelle. En fait, c'est pas un sandbox où vraiment tu vas. Va y avoir des systèmes qui fonctionnent vraiment entre eux. Non, c'est juste le bon objet au bon endroit et t'appuies sur le bon bouton et c'est bon. En fait, ils nous mettent des 1 plus 1 et à partir du moment où tu dis, ah, tiens, ça fait 2, bah c'est bon, t'as pas vraiment besoin de le faire. En fait, on apprécie plus la créativité des devs du studio plutôt que la nôtre parce qu'il y a pas vraiment de créativité.
Non,
c'est juste découvrir.
C'est
en
pas
fait,
un jeu vraiment. C'est pour ça, sur Twitter, on me posait la question, genre, est-ce que c'est un immersive sim ? Je disais, bah, je pense pas que ça en soit un, parce que pour moi, ce qui caractérise un peu l'immersive sim, c'est de trouver des solutions un peu émergentes, créer un peu sa propre sauce. Alors que là, dans Hitman, c'est placer balle explosive sur le tee, tu vois. Et quand t'arrives vers le tee, il y a Hitman qui te dit, là, tu peux placer une balle explosive. Tu vois, t'as l'interface qui te dit ça, donc tu te dis, ok, dans le niveau, il y a une balle explosive. Et c'est vraiment une clé, c'est une clé d'un puzzle, et de dire, bah, hop, je vais la poser dessus, et ça crée la solution. Et ouais, je suis vraiment d'accord avec toi. Avec cette idée que, bah en fait, moi, je me baladais dans les niveaux, je voyais les opportunités, je fais « Ah ouais, ça doit être rigolo. Ah oui, celle-ci, ça doit être rigolo. » Et en fait, au moment où je devais me dire « Bon, bah allez, let's do it, on finit », bah j'étais beaucoup moins motivé à le faire, parce que je me dis « Bah en fait, c'est pas vraiment... En fait, tuer ma cible, c'est pas vraiment ça qui m'intéresse. C'est plus de voir un peu toute la toile d'opportunités qui se tisse devant moi qui me fait plaisir. »
Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup plus d'ailleurs d'un jeu de puzzle entre nous que d'un jeu d'infiltration pure, parce qu'on est vraiment dans cette idée que tu es face à un problème. Le problème, c'est séparer, en gros, tuer, faire disparaître ce PNJ. Le fait de le tuer, bon, c'est juste une matérialisation de cette idée-là. Mais tu es vraiment face à une espèce d'horloge. Tu sais, c'est comme si on t'imaginait au milieu d'une montre et toi, tu dois juste passer entre les rouages, réussir à te glisser comme il faut.
Ou changer un rouage à un autre
passer
et du coup,
un
ça
truc
va,
et
ça va changer l'ordre des aiguilles et c'est
et voir mais pour que ça, et que ça aboutisse à quelque chose. Mais vraiment, tu as cette idée de, je trouve, moi, de puzzle, et c'est vrai que bah, une fois que je l'ai fait dans un niveau, j'ai du mal à me replonger dans un nouveau niveau, même si par contre en termes de visuel ou quoi que ce soit, et à chaque fois tu sens qu'ils ont des idées et qu'ils ont envie de te faire découvrir des trucs, donc pour peu que tu sois sensible à ça, c'est vrai que tu vas apprécier, mais c'est vrai que j'aime plus le côté un peu plus de liberté au niveau de la, ben, de, comme on disait, de ce qu'on pourrait imaginer nous être un peu créatif en tant que joueur joueuse, de se dire ah bah tiens, je vais jouer avec ça, je vais jouer avec tel système, je vais profiter de je sais pas quoi. Et d'ailleurs, ça c'est un truc qu'on apprend dans nos clips, c'est que entre le 1 et le 2, ils ont vraiment eu envie pour Hitman 2 d'aller beaucoup plus loin et de rajouter comme ça des idées de trucs un peu systémiques. Bon, entre temps, il y a eu le Squexit, du coup ils ont pas pu le faire, mais je serais pas surpris que ça soit quelque chose vers lequel ils reviennent plus tard, parce que je pense qu'ils ont envie aussi d'essayer de peut-être de voir vers quoi ça pourrait aller.
J'appuie juste sur un truc que tu as dit qu'on n'est pas très libre. Je pense qu'il y a des gens qui pourraient l'entendre d'une mauvaise oreille et dire bah, comment ça on est libre puisqu'il y a plein de façons. Oui, mais justement, c'est des façons qui ont été pensées par les, par les développeurs.
Oui, je vois ce que
tu
veux dire.
Vraiment, en fait, on va rentrer dans des cases où il y a plein de cases et justement, tu as la liberté de choisir tes cases, mais par contre, c'est quelque chose qui a été prévu tout le temps par le développeur, les réactions en chaîne. Alors oui, si tu vas peut-être très loin, tu vas pouvoir créer des réactions en chaîne, des choses comme ça, mais c'est pas... moi, je compare forcément, par exemple, à Zelda, à Breath of the Wild, où vraiment, il y a des moments où j'avais l'impression que j'avais cassé le jeu, tu vois, parce que j'avais fait un truc avec mon cinétisme, machin, et j'étais là, je suis trop malin, tu vois. Et ça, Hitman m'a jamais fait ressentir ça. Je me suis dit, ah, c'est rigolo, cette idée qu'ils ont eu les développeurs, bah voilà, je vais essayer de rentrer dedans. Mais c'est pas moi, je me suis dit, je suis trop un génie, j'ai cassé le jeu, j'ai exploité un truc, et que tu vas ressentir, par exemple, aussi dans Prey, par exemple, les jeux Arkane, ils savent bien faire ça. Là, c'est pas forcément quelque chose que Hitman sait faire.
Tu fais bien de le dire, c'est-à-dire que quand je parle effectivement de liberté, c'est ça, c'est-à-dire que avec l'expérience de jeux vidéo, moi en tout cas, ce que j'aime bien dans les jeux, c'est de sentir comme ça cette espèce de liberté ou de plaisir dans le gameplay. Et là, bah, Hitman, en fait, au bout d'un moment, tu vois la matrice, c'est-à-dire que bah, une fois que tu as compris comment un niveau fonctionne, tu sais comment les autres ils vont fonctionner. Tout ce qui va changer, c'est à quel moment tu vas t'insérer dans la routine, mais le jeu reste ça, c'est-à-dire qu'à qu'à un moment il y a une routine, tu vas y aller dedans et tu vas jouer avec
c'est
ça.
C'est comme, je sais pas, résoudre une matrice de mathématiques. Une fois que tu connais la technique, bah c'est juste les chiffres à l'intérieur qui changent et après bah tu résous ton problème. Enfin c'est pareil pour un trinôme du second degré. Enfin tu connais la formule et après bah voilà, c'est juste que parfois il y aura des petits trucs. Je vais te mettre des 0,5, tu vas voir, ça sera beaucoup plus compliqué. Mais au final voilà.
Mais il y a ce gros plaisir, comme on l'a dit, hein, y a quand même ce gros plaisir de fans vraiment hardcore où eux voilà ils vont mettre difficulté au max et tout, aucune indication quand même, et ça va être le plaisir en fait de chercher, trouver justement de chercher les chiffres, les inconnus
et d'expérimenter et ensuite... par eux-mêmes chacune des solutions qui a été envisagée par les devs, parce que c'est vrai que ça peut être une forme de plaisir
Oui c'est ça, si tu trouves ton plaisir là-dedans par contre, alors là le jeu on parlait de Dope et de Stringer Bell tout à l'heure, t'inquiète pas que la cam il va y en avoir.
Et puis bon, il y a des vrais challenges aussi, parce qu'il y a quand même toujours le challenge de ne jamais changer de déguisement, de faire là, ça doit pas être évident, tu vois. Je pense que t'as beaucoup plus de rondes à observer.
J'imagine
que tu découvres des nouvelles façons de jouer, des nouvelles tactiques auxquelles tu penses pas forcément, et ça peut peut-être plus créer des moments de jeu aussi où t'improvises peut-être un petit peu plus. Moi je me souviens juste d'un moment de jeu où j'étais un peu plus bourrin que d'habitude, c'était à Hokkaido, j'en avais un peu marre hein, concrètement. Et à un moment il y a deux gardes dans la même pièce et il y en a un qui regarde pas, et je me dis tiens j'en étouffe un, je vais étouffer l'autre après, et au moment où je finis d'étouffer, t'sais, l'autre il se retourne et tu sais limite c'est genre il prend le sifflet, il le porte à ses lèvres, tu vois, il va activer l'alarme, et là je prends un marteau et je lui balance à la gueule juste avant qu'il enclenche l'alarme. Ça c'est un moment, tu vois, où je me suis dit bon ça c'était pas quelque chose de prévu comme d'habitude, c'est pas genre tu mets tel poison dans tel verre, il va aller dans telle toilette pour s'étouffer, tu vas le mettre dans telle armoire, et là tu sens que c'était ultra balisé quoi.
Mais justement en fait je pense que c'est quand tu commences à vouloir jouer un peu pas simplement avec les déguisements et tout, tu dis bah je vais faire les défis de sniper, je vais faire le défi maître assassin où je me déguise pas, et du coup bah là tu joues complètement, tu sais, tu te caches sur les rebords, tu fais vraiment plus de l'infiltration en fait traditionnelle. C'est là en fait que tu te rends compte que les niveaux en fait ils ont un niveau de complexité et quand même qu'ils autorisent en fait à tous ces styles de jeu d'exister, que tu te dis là ah oui en fait voilà c'est peut-être pas forcément ma cam, mais par contre je reconnais vraiment le soin et le voilà vraiment la science qu'ils ont ces level designers à faire des mondes comme ça.
D'ailleurs je trouve ça cool d'en parler, j'aime bien l'idée mais j'aime pas forcément y jouer.
Exactement.
Ouais, bah en tout cas moi aujourd'hui j'ai pas suffisamment envie de m'impliquer pour faire toutes les fins. Moi ça me suffit quand je termine un niveau, donc déjà j'ai constaté quelques opportunités, quelques moyens de tuer, et après je lis la liste des succès et je prends juste déjà plaisir à dire ah ils ont pensé à ça, ils ont fait ci, ils ont fait ça, et en fait j'ai déjà suffisamment de plaisir. Mais sinon un truc alors je sais plus si c'est dans le 1, mais en tout cas dans le 2, quand on termine le premier niveau, ils te disent bien attention, terminer un niveau une fois en fait c'est que le début, c'est pas terminé, il y a encore plein d'opportunités à voir, il y a plein de personnages qui ont été écrits, de situations qui ont été mises en place, et à la fin ils te mettent même une petite liste d'opportunités où moi il y en avait une que j'avais faite et il y en avait deux autres où ils ont dit voilà, oh ça vous savez pas, vous pouvez peut-être faire ça machin, et ils t'invitent vraiment à relancer le niveau, à recommencer. Ça rejoint un petit peu ce qu'on avait dit pour Devil May Cry 5, où il y a vraiment ce parti pris dans Devil May Cry, où quand tu termines en fait ils disent eh ben en fait c'est bon, vous avez débloqué le vrai niveau de difficulté,
le vrai jeu commence,
voilà, là vous savez jouer, c'est bon, vous allez pouvoir vraiment jouer au jeu. Tu dis ah bon, mais pourtant
j'avais vraiment l'impression de jouer jusqu'ici,
là les 10-15 heures là c'était que pour du vent, je sais plus, j'ai oublié que c'est une expression, et là c'est un peu pareil, faut avoir envie quand même de se retaper le truc. Alors oui, tu peux recommencer à une autre destination avec une autre arme. Mais bon, tu vois, il y a un côté...
De toute façon, il y a vraiment cette volonté-là, même quand tu finis le jeu, tu remplis une petite barre d'expertise sur le niveau, tu remplis des niveaux comme ça.
Oui, tu vois où t'en es, en fait.
Et tu vois où t'en es. C'est vrai que moi, sur Paris, je suis monté au niveau 15 parce que j'ai fait plus de choses, mais après, c'est vrai que j'ai plus la motivation. Mais en tout cas, tout ça pour dire que voilà, c'est une formule qui, même si, à titre personnel, et voilà, on se rejoint là-dessus, on n'a pas forcément... peut-être qu'on ne l'apprécie pas à sa juste valeur.
Mais si, parce qu'en plus, on l'apprécie, en fait.
Si, oui,
c'est ça qui est rigolo, c'est qu'on est tous d'accord pour dire que c'est très très bien, voilà, mais on n'aime pas ça.
Non, c'est pas choquant. Je dirais pas que j'aime pas. C'est pas ma cam.
Ça l'était il y a quelques années, puisque j'avais fait un guide sur Absolution, et à l'époque de Blood Money, j'y passais vraiment beaucoup de temps sur ces jeux-là, et ça me parle moins aujourd'hui. Donc, tu vois, c'est des questions de phase, mais par contre, d'observer les niveaux, de voir et de les écouter en parler dans les docus et tout, je trouve ça toujours fascinant parce qu'il y a, comme tu disais tout à l'heure, il y a un savoir-faire qu'on retrouve dans très peu de jeux, en fait. Il y a quasiment personne d'autre qui fait des jeux à la Hitman. Batman.
Moi, je me demande vraiment si c'est pas une question de mode de consommation du jeu vidéo, de dire que bah, aujourd'hui, c'est rare quand même quand je recommence un jeu. C'est, en général, c'est beaucoup plus tard déjà quand je vais décider de refaire un jeu. C'est vraiment parce que j'ai eu un gros coup de cœur. Je me dis, bon, bah ok, j'ai vraiment envie de relancer le truc. Et parce que bah, j'ai plus aussi une vraie abondance de jeux et me dire, bon, bah je vais passer 7 heures, 10 heures dans un seul niveau que, bon, j'ai déjà quand même l'impression d'avoir goûté un petit peu, tu vois. J'ai eu un peu les goûts en bouche, j'ai compris ce que ça va me raconter. Je pense que, ouais, aussi, c'est un rapport peut-être qu'a changé. J'ai pas forcément de conclusion à donner là-dessus, mais j'ai une espèce de piste de réflexion là-dessus.
Mais ça nous faisait rigoler d'en parler entre nous, parce qu'on n'était pas dans le cas d'un épisode où là, on n'avait pas trop aimé. Là, en fait, on est d'accord pour dire que c'est des jeux qui sont vraiment très bien réalisés, que tout est maîtrisé, etc. Mais c'est juste que, on n'y prend pas forcément beaucoup de plaisir.
Ouais, et puis, comme dit, moi, il y a quand même un truc vraiment que je regrette, c'est vraiment ce manque de variété. Ouais. Tu vois, comme je disais, les niveaux sont très variés, mais les systèmes, les mécaniques et tout, ça reste quand même grosso modo.
Il n'y a pas une petite, une petite couille dans le fromage, comme on dit à chaque fois, qui va faire que, ah bah dans ce niveau, je vais devoir prendre une autre problématique, une autre circonstance
en compte. Ah tiens, maintenant j'ai un grappin.
Et apparemment, c'est ce que veut le,
ouais,
ce que
voilà,
veut faire le 3.
C'est ce que j'espère aussi, mais enfin, je pense vraiment à un truc tout bête, tu vois, mais je sais pas pourquoi je pense à ça maintenant, mais on parlait d'un niveau de Hotline Miami, bah il y en a un où à la fin, hop, les flics débarquent, et ça change tout, tu vois, ça change complètement ton rapport niveau. Il n'y a pas de petit événement comme ça qui vient tout bousculer, en tout cas, pas dans Hitman 1.
Et donc, bah, ça peut nous permettre d'enchaîner sur le fait que bah, c'était effectivement que le premier épisode d'une trilogie, puisqu'en fait, bah, Hitman a continué d'exister après ce Hitman 2016, qui a été un épisode, finalement, qui a réussi son objectif de redonner, on va dire, les lettres de noblesse de la série, puisque les fans étaient contents. Ça a souvent été mis en avant comme étant peut-être le meilleur Hitman à ce jour, etc. Ouais. etc. Mais, les échecs en termes de modèle économique fait que le jeu ne s'est pas vendu suffisamment, donc Square Enix a lâché IO Interactive entre le 1 et le 2, ce qui les a forcés à revoir un petit peu leur scope à la baisse pour Hitman 2. Mais ce qu'ils avaient de pratique avec cette idée de trilogie, c'est que comme le jeu évolue sur une seule et même plateforme, là, le fameux World of Assassination, en fait, toutes les améliorations qu'ils ont pu avoir après par la suite dans le 2 avec les hautes herbes qui permettent de se balader, si vous jouez vous aujourd'hui à Hitman 2016, vous n'aurez pas le même jeu que nous on a.
Moi j'y ai joué aujourd'hui, sauf que j'avais acheté Hitman 2016, donc j'ai joué à ça. Voilà. Si vous achetez le 3 et que à l'intérieur vous avez intégré le premier et le 2, vous aurez en fait ces deux jeux là avec l'ergonomie et quelques mécaniques du 3 qu'on t'a ajouté.
C'est le moment où on prend 15 minutes pour expliquer.
C'est confus.
Même eux ils savent pas.
Même eux ils doivent pas vraiment savoir.
En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous achetez Hitman 2, il peut y avoir le 1 si vous payez un peu plus les niveaux du 1 avec les mécaniques du 2, et de la même manière, si vous achetez le 3, il peut y avoir, si vous payez plus,
si on peut garder
le 2
ses sauvegardes entre le 1 et le 2,
je vais pas détailler.
Déjà, on va pas faire style comme si on connaissait parfaitement.
Non, mais c'est le
bordel. Par contre, ce qui est vrai, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment une espèce de grande trilogie qui est basée sur cette formule, et que IO a vraiment délivré au monde, tu vois. Genre, ils ont montré, pour nous, c'était ça, fin des années 2010, Hitman, c'était ça. C'est ça que nous on sait faire, on le donne au monde. On a fait, je sais pas, il doit aller une vingtaine de 20, peut-être 18 locations, je sais pas s'ils en ont fait 6
à
chaque
fois. Je crois que c'est 6 ou 7 dans chaque jeu, donc ça fait pas mal.
Voilà, il doit en avoir une petite vingtaine et voilà, c'est ça Hitman aujourd'hui, et je pense que ils ont réussi à imposer ça même dans l'imaginaire, tu vois, de dire Hitman pour moi c'est cette formule là en tout cas d'un point de vue moderne, c'est ça, tu vois. Ils ont réussi à l'imposer et j'ai compris ce que c'était, je sais ce que vous voulez faire, et si je veux jouer à ça, j'aurais pas le choix, je devrais passer par vous, quoi, parce que vous êtes les seuls dealers de cette cam là.
Puis c'est bien qu'il lève un peu le pied, parce que quand même Hitman 3 est sorti assez vite par rapport au 1. Je pense qu'on a été pas mal à se dire, ah ouais, le 3 il est déjà sorti, enfin j'ai pas joué au 1, tu vois. Bon, il y a
ça allait vite, donc c'était sur 2016
sur 5
qu'il
ans,
est
il
sorti,
y a eu 3 jeux.
Fin 2018 est sorti le 2, et là le 3 est sorti en janvier, voilà.
Ouais. Et donc ce qu'on a appris, c'est que par la suite IO effectivement là ils vont mettre un peu en pause Hitman à nouveau, donc on verra. Surtout ils se retrouvent pour de vrai cette fois-ci, je crois, indépendants. Ça leur était pas arrivé depuis très longtemps, parce que Hitman 3, ça y est, ils sont vraiment seuls aux commandes. Il y a plus ni Warner Bros, ni Square Enix, ni quoi que ce soit. Enfin, Square Enix a toujours des parts dans la boîte, mais ils sont plus en commande, ils sont plus en contrôle. Et surtout on a appris, donc ça c'était quoi, c'était le mois dernier, c'est très récent. En fait, ils ont annoncé qu'ils allaient travailler sur une nouvelle licence, en tout cas sur l'adaptation une licence qui est James Bond.
Exactement.
Et ça fait au moins 3 ans qu'ils bossent dessus, en tout cas, parce qu'ils en parlent déjà dans le docu-clip donc c'était vers fin 2018, début 2019, mmh. et ils disaient déjà qu'ils bossaient voilà, sur une IP, c'était pas encore officiel, maintenant on sait que c'est James Bond.
Comme ils ont eu une matrice, je pense que tu vois, vraiment, ils ont pu continuer à travailler dessus, tu vois, tout ce qui manquait, c'était de dire, bon bah ok, on retrouve un lieu, qu'est-ce qu'on fait dedans, alors avec le 3, apparemment, il y a des petits twists et tout, ils ont rajouté ça, mais c'est vrai qu'en parallèle, le studio a encore regrossi hein, depuis, hein. Je crois qu'ils sont plus de 200, 250 maintenant.
Bah, c'était même pas les mêmes qui bossaient sur... En fait, ils ont ouvert un nouveau studio en Suède, ouais. je crois, qui bossait sur les Hitman, et du coup au Danemark, mm-hmm. il y a une partie où tout le studio, je sais pas, qui bossait sur James Bond, donc oui, ils ont quand même grossi. J'imagine qu'ils ont reçu des financements pour James Bond qui ont pu leur permettre.
Oui, bien sûr, ouais. Mais du coup, voilà, c'est vrai que bah on est curieux de voir ça, parce qu'on en discutait là juste pendant la préparation, on se disait que c'est vrai que les jeux adaptés de licence, alors peut-être fin des années 90, c'était stylé, hein, des James Bond, voilà, GoldenEye, c'est pas rien quand même, hein, c'est un gros nom, mais par contre, par la suite, ça a pas toujours été...
Il y en a eu plein d'autres qu'on a
voilà,
oubliés,
voilà,
je pense.
Voilà, hein, ouais. dont on connaît le plus long, ce qui traduit ouais. en général leur qualité, mais c'est vrai que, ouais, moi je suis assez curieux de voir justement un studio comme IO qui fait quelque chose de, bah, d'assez particulier dans le jeu vidéo, qui est ce que ça va être leur vision de James Bond, comment ils vont pouvoir s'approprier cette licence, en faire quelque chose d'un peu faire quelque chose de leur quoi, leur James Bond. Je suis assez curieux de voir ça. Je pense pas que ce sera une skin d'Hitman, parce que je pense que ce serait vraiment dommage, ce serait vraiment une sachant qu'ils viennent d'en faire 3, stop quoi.
Pense que même eux ils en ont fait le tour au bout d'un moment de cette formule là on a vu ce qu'ils pouvaient faire, et puis de toute façon James Bond ça va les forcer à changer en fait leur fusil d'épaule. Il va y avoir forcément des impératifs d'action qui n'y avait pas forcément dans Hitman. Va y avoir des bagnoles, va y avoir des courses poursuites, va y avoir forcément des scènes de bataille à main nue. Enfin, donc ça va. Est-ce que ça va être quelque chose qui va se rapprocher de ce qu'on avait connu à l'époque d'Absolution, etc.
Ouais.
Enfin, ça va les forcer de toute façon à revoir leur copie. Mais je pense que ce qui est sûr, c'est que tout ce qu'ils ont appris là sur Hitman ces dernières années, c'est forcément un truc qui va infuser énormément dans ce James Bond là. En tout cas,
sachant que oui, James Bond infusait déjà dans Hitman. Hein, parce
oui,
qu'on rappelle Sapienza, il y a vraiment le moment quand t'arrives dans la grotte, c'est le mec qui développe un virus, machin, et il y a vraiment une musique James Bondesque qui s'active quand t'arrives,
ouais.
Enfin, voilà, t'es complètement dans
bah oui, et puis il y a un yacht, tu vois, super luxe et tout, tu te dis, ah, je peux m'enfuir par là, etc. Enfin,
et puis même James Bond, enfin, en tout cas dans les vues, il y a toujours une tonalité aussi, il y avait une espèce d'humour un peu particulier.
Bien sûr,
si tu penses à Roger Moore, c'était quand même ces James Bond là, c'était vraiment avec un humour un peu particulier.
Ouais. Puis t'as toujours les gadgets,
oui,
vraiment,
ouais, avec
enfin, Pierce Brosnan, c'est très inspecteur gadget.
Oui, la montre qui fait laser,
ouais, la voiture invisible,
tous ces trucs là. Mais c'est vrai que du coup, c'est intéressant de voir ce que le studio pourra
faire.
Ce qui va
être rigolo, c'est qu'en plus c'est une série qui se cherche aussi du côté du cinéma, donc tu vois James Bond c'est quand même une grosse franchise, mais voilà, il se cherche du côté du cinéma, peut-être des séries, j'en sais rien, et peut-être que le jeu vidéo ça va être intéressant. Ce qui est cool, c'est que comme on l'a dit, comme là c'est un studio qui a vraiment une grosse identité, c'est pas une commande, c'est pas genre vous nous faites un jeu adapté d'un film, c'est allez-y IO, faites-nous votre James Bond.
En tout cas, j'espère,
je trouve ça intéressant.
J'espère qu'ils sont allés les chercher justement parce qu'ils ont des savoir-faire et qu'on ne trouve pas ailleurs, parce que comme dit du Hitman, il y a personne qui en fait du Hitman, quoi, tu vois.
On peut citer un peu, on l'avait dit dans la filiation, il y a un petit peu Dishonored, quand même. Il y a des ponts à faire entre Hitman et Dishonored, avec ce côté, il y a une cible à tuer, il y a plusieurs méthodes à faire. Dans Dishonored, il y a toujours une façon non létale, et en fait, pour ça, non létale de se débarrasser de la cible. Et pour ça, et il faut du coup se renseigner un petit peu sur le monde, comment faire. Parfois, il faut faire une quête annexe pour débloquer la façon non létale, etc. Bon, après, voilà, Dishonored.
C'était pas mal, ça, ce jeu.
Oui, c'était bien. Un jour, peut-être qu'on en parle.
J'ai bien aimé aussi,
mais voilà, c'était plus immersive sim, c'était plus voilà du système, du gameplay qui évolue, hein, parce que là il y avait une vraie progression entre niveaux, c'était différent, mais on peut en parler comme d'un héritier, je pense, indirect, en tout cas c'est... Disons que Hitman, je pense, est une des inspirations de
Dishonored. Oui, et puis sachant que, on le disait, le mec qui avait bossé sur le premier venait de Thief et Deus Ex, qui sont les ancêtres. Donc voilà, on est.
Oui.
C'est pas tout à fait le même panier, mais on est dans une cosmologie comme ça qui communique.
Harvey Smith était lead designer sur Deus Ex et était creative director sur Dishonored. Donc,
tu connais bien le CV de ces gens-là.
Un petit peu.
on en a déjà parlé.
Mais clairement, le plus gros père de Dishonored, c'est Deus Ex, mais il y a un petit peu de Hitman, je pense, dedans. Ouais.
En tout cas, pour conclure un petit peu sur ce Hitman 2016, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un épisode qui a à nouveau mis dans une situation très complexe à IO Interactive, mais qui leur a finalement mis, a posteriori, le pied à l'étrier pour reprendre, vraiment redorer leur blason, renouer, on va dire, avec les fans de la série de Hitman, redonner à l'Agent 47, voilà, un jeu, comme tu disais, une espèce de trilogie monomythe où tu peux, gros monolithe comme ça, tu peux y jouer, tu as du contenu pour des années de jeux vidéo si jamais tu t'intéresses au truc. Et maintenant, ils ont aujourd'hui gagné comme ça une espèce de... Ils ont retrouvé en fait une place, tu vois, dans le paysage où ouais. c'est un studio à part, ils ont leur identité, ils ont ce truc-là, et donc, ben... La suite, moi j'ai envie de leur souhaiter le meilleur. Quoi.
Sachant que le 3, c'est très bien vendu dès le départ, hein, ça ouais. a bien marché. Moi c'est vrai que ça m'a fait vraiment plaisir. Ça m'a fait vraiment plaisir pour eux en fait de se ouais. dire que ce studio qui s'est dit bon bah on fait un truc qui est particulier, qui peut diviser, hein, comme c'est un petit peu qui n'est pas fait vraiment pour plaire à tout le monde, mais on a continué un peu à taper au même endroit. Et en fait, bah quand le 2 est sorti, c'est vrai qu'il y avait tout le monde qui dit ah oui c'est vrai, on devrait quand même jeter un œil à Hitman. Bon bah on l'a pas fait. Et là quand le 3 est sorti, je me suis dit bon bah vas-y, je vais vraiment jeter un œil. Et c'est vrai qu'ils ont continué à pousser ce truc et ils sont allés au bout. Et ça c'est vrai que ça fait plaisir en fait pour des créatifs de dire que bah en fait ça y est, vous avez quand même réussi à installer un truc, ça s'est concrétisé, ça va continuer à générer de l'argent. Et c'est vrai que ça me fait vraiment plaisir pour ce studio qui en plus a dû bon an mal an devenir indépendant pendant ces dernières années. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Merci de nous avoir écoutés. Évidemment, on n'a pas pu rentrer dans tous les détails des subplots des assassinats, parce que bon, on en aurait pour un bon moment. On vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Préparez vos tubas, vos palmes, des choses comme ça. Voilà, je vous dis, vous pouvez partir là-dessus. On remercie une nouvelle fois Sœur d'édition. Je rappelle que c'est les 35 ans de la saga Zelda. Cette petite série un peu inconnue du jeu vidéo, voilà. Si vous voulez, il y a des rééditions, les bouquins ont été réédités, celui de Fanny qui va pas tarder à arriver sur la musique de Zelda, bref, vous pouvez aller découvrir ça sur le site de Third. Vous pouvez aussi aller sur un autre site qui s'appelle Patreon et nous donner directement de l'argent, pas besoin de passer par des livres, par un intermédiaire, comme ça vous pouvez comme ça contourner le site. non, vous pouvez nous aider, d'ailleurs, merci beaucoup encore une fois à toutes les personnes qui nous rejoignent, vous pouvez nous rejoindre sur Discord, on est beaucoup là-dessus, hein.
Ah, j'ai plus le chiffre exact
ouais,
en tête.
On doit être à 4500
ouais,
presque.
Plus de 4000 personnes. Ouais,
toujours en ZAD, autogéré, comme ça. Ça va,
ça va pour l'instant, on s'en sort pas mal. Ouais.
Vous pouvez venir et voter du coup pour les jeux de la Blacklist quand le palier sera atteint.
Si vous voulez sauver Nico Bellic, qui a été bolossé par Pikachu, vous pouvez le faire. Voilà, merci encore de nous avoir écoutés. On se retrouve dans 2 semaines. Salut.
Ciao.